Bien, alors nous sommes chez M. Souchu, 1 rue de la Pèlerine, le 7 septembre 1968. Et nous allons vous poser, si vous permettez, quelques questions. Peut-être vaut-il la peine de dire, avant de commencer, que nous nous plaçons toujours à deux niveaux, sur deux plans, le plan à la fois Orléans et en même temps le plan national.
C'est ça.
Alors, les ressemblances et différences enfin, entre Orléans et le reste de la France.
C'est ça.
Et pour commencer, je voudrais vous poser une petite question sur, une question sur l'organisation syndicale en France, puisque pour les Anglais, c'est un problème assez compliqué. L'organisation étant très différente.
C'est ça. Alors, vous savez que la grosse différence, justement, c'est qu'il n'y a pas en France la même unité syndicale qui existe en Angleterre. On a plusieurs organisations syndicales. En France, la CGT, qui est la plus importante, la CGT Force Ouvrière, qui est née d'une scission de la CGT en 1947 et en grande partie pour des motifs d'ordre international. C'est résulté en grande partie du pacte atlantique et des problèmes qui tournaient autour. La CFDT, qui était précédemment la CFTC et qui est devenue la CFDT à son congrès de 1964, qui n'a d'ailleurs fait consacrer une situation de fait. Et puis alors, il est subsisté une organisation qui a voulu garder le titre de CFTC et avec laquelle il y a de la procédure entre la CFDT et cette CFTC, qu'on appelle CFTC maintenue d'ailleurs.
Est-ce que vous pourriez expliquer les sigles, s'il vous plaît?
Alors, CGT, Confédération Générale du Travail, qui a des adhérents qui ne sont... Enfin, souvent, on traite les adhérents de la CGT de communistes. En réalité, il y a une partie des adhérents de la CGT qui sont effectivement communistes, beaucoup d'adhérents qui ne le sont pas. Par contre, il est certain que la direction de la CGT est assez largement sous l'emprise du Parti communiste. Merci bien. Et que d'un autre côté, ils ont du mal à s'en libérer. On trouve des gens qui sont à la fois dans les organes de direction de la CGT et du Parti communiste, n'est-ce pas ? Alors que à la CFDT, qui est la Confédération française démocratique du travail, on souhaite, d'ailleurs on veille à ce qu'il n'y ait pas de confusion entre les responsabilités syndicales et les responsabilités politiques.
C'est ça. Est-ce que ça traduit comment, en fait, ce souci de séparer politique et syndicale?
C'est-à-dire que si un de nos camarades prend des responsabilités sur le plan politique, il peut rester adhérent au syndicat, mais il n'aura plus de responsabilité, il ne pourra plus, par exemple, être secrétaire d'un syndicat ou d'une union départementale. Voyez-vous, on cherche à... C'est d'ailleurs un problème sur lequel on recherche toujours, parce que, vous savez, le mouvement a des alternances. Vous voyez ces jours-ci des articles, justement, sur les trade unions, où on sentait quelques difficultés entre le Parti travailliste et les trade unions, et on parlait presque même de rupture, c'était peut-être aller loin, mais enfin... Alors je crois que dans tous les pays, on en est là, quoi, on cherche un peu, et on sait bien, à la CFDT, et c'est pourquoi on ne se désintéresse pas des problèmes politiques, on l'a bien montré au mois de mai, que, de toute façon, il y a beaucoup de problèmes sociaux qui ne peuvent trouver leur aboutissement que par un fait politique, n'est-ce pas ? Mais ce qu'on veille surtout, c'est à ne pas être sous la coupe d'un parti politique. Alors, donc, il y a la CGT, la CFDT, la CGT Force Ouvrière, alors qui est la Confédération Générale du Travail, Force Ouvrière, qui était, en somme, la tendance socialiste, non communiste de la CGT, qui s'est séparé de la CGT en 1947. Alors la CFTC, l'organisation qui continue à s'appeler CFTC, le sigle c'est Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Alors il y a une organisation, il y a encore deux autres organisations, mais qui sont, disons, particularistes, en sens que l'une s'adresse uniquement aux cadres, la CGC, Confédération Générale des Cadres, et l'autre qui est spécifique à l'enseignement, qui est la Fédération de l'Éducation Nationale. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des enseignants qui soient dans d'autres organisations. À la CFDT, on a un syndicat, le Syndicat Général d'Éducation Nationale, qui regroupe beaucoup d'enseignants de tous les degrés et qui sont à la CFDT, qui ne sont pas à la Fédération d'Éducation Nationale.
C'est le SGEN, alors.
Le SGEN, oui, c'est ça, oui, le SGEN, qui est, alors lui, un des syndicats qui compose la CFDT. Les confédérations. Oui.
Pourriez-vous peut-être faire quelques comparaisons entre les syndicats, alors, d'autres point de vue de la clientèle, point de vue des objectifs, des...
Oui, alors, il y a eu une évolution, là, dans la clientèle. Il est bien certain que la CFTC, à l'époque, est née d'une situation très particulière, en ce sens que... la France est quand même un pays à majorité catholique et l'Église catholique, surtout au moment de la Révolution de 1848, s'est beaucoup coupée de la classe ouvrière au moment de la Révolution politique et puis de toute la période de la Révolution industrielle. Il est bien certain que l'Église catholique a pris des positions qui l'ont coupée et eu des attitudes qui l'ont coupée de la classe ouvrière. Et il en est resté une très grande rupture, à tel point que quand il a été possible de reconstituer des organisations syndicales après la loi de 1884, il s'est constitué une organisation qui a été la CGT, n'est-ce pas? Mais on n'admettait pas les catholiques dans cette organisation, tout au moins les catholiques pratiquants, n'est-ce pas, ne les admettaient pas dans cette organisation, on les considérait comme des jaunes puisqu'ils appartenaient à une religion qui avait pris des positions. Alors, ça a quand même gêné, enfin c'était très pénible pour des ouvriers qui étaient catholiques de se sentir coupés de leurs camarades de travail, ils étaient tiraillés entre les deux, c'est de là qu'est né... Et effectivement, sous l'impulsion à l'époque de prêtres ou de frères, est né le syndicalisme chrétien, qui est né à la fin du XIXe siècle et qui s'est développé, mais surtout qui s'est développé entre 1920 et 1939, et en particulier en 1936. Mais en 1936, vous voyez à quel point était la coupure. C'est qu'il y a eu les accords Matignon en 1936, et la CGT a refusé que la CFTC de l'époque participe aux accords Matignon, n'est-ce pas? Alors, il y a ce qui donne l'ampleur de la rupture, mais quand même à ce moment-là, la CFTC a fait sa percée, elle n'a pas participé aux accords Matignon, mais elle a participé à des accords d'entreprise, à des discussions de conventions collectives sur le plan local. Et alors, la CFTC a fini de faire sa percée pendant la guerre de 1940-44, parce que beaucoup de ses responsables ont pris une part active à la résistance, et d'autre part, il y a eu un manifeste qui a été signé par un certain nombre de syndicalistes pour refuser la soumission du syndicalisme à l'État, et en particulier par trois responsables de la CFTC. Alors ça a marqué une évolution de la CFTC. À partir de ce moment-là, il est certain qu'elle s'est beaucoup plus dégagée. Elle était déjà très dégagée de l'Église catholique, mais beaucoup plus. Moi, j'ai adhéré à la CFTC après la guerre, puisque j'étais encore étudiant avant. Et je n'ai jamais vu, j'ai été presque tout de suite responsable sur le plan départemental. Jamais vu que la CFTC ait quelque compte à rendre à qui que ce soit sur le plan de l'Église catholique, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que l'évolution, enfin, la transformation du titre était vraiment quelque chose qui concrétisait dans les faits une situation, qui concrétisait dans le titre une situation de fait qui existait depuis très longtemps et qui était gênante pour un certain nombre de travailleurs qui reconnaissaient. Qui préférait les principes, car le syndicalisme français est très idéologique, qui reconnaissait les principes de la CFTC, mais qui était gêné par ce titre chrétien parce que ça les gênait d'avoir cette étiquette, alors que sur le plan religieux, c'était indifférent.
C'était alors par rapport aux autres syndicats, aux syndicalistes qui auraient pu, pour qui l'étiquette chrétien
c'est ça, avait c'est certaines... Ça. C'est ça. Alors depuis cette période, progressivement, la CFTC qui s'adressait principalement, alors on parlait tout à l'heure du recrutement, s'adressait principalement à l'origine aux employés, c'est-à-dire au milieu employé, a gagné beaucoup le milieu ouvrier. Et à tel point que depuis maintenant pas loin d'une dizaine d'années, le secrétaire général, qui est Eugène Descamps, est un ouvrier de la métallurgie. Alors que tout le temps, il y avait eu des gens issus de la Fédération des employés ou issus du syndicat des journalistes, enfin, voyez-vous, il y a eu une évolution très nette. Et maintenant, le recrutement, disons, de la CGT et de la CFDT, sur le plan sociologique, il n'y a absolument pas de différence. Il n'y a absolument pas de différence. Ici, à Orléans, dans la plupart des entreprises de métallurgie, par exemple, c'est le milieu le plus développé, enfin c'est l'industrie la plus développée ici, eh bien, la CFDT, la plupart du temps, est majoritaire dans le collège ouvrier, par rapport à la CGT. Quant à Force ouvrière, maintenant, limite son recrutement, enfin limite, elle ne le limite pas parce qu'elle le veut, mais enfin se trouve limitée dans son recrutement au milieu fonctionnaire. Fonctionnaires et employés, c'est surtout le lieu de recrutement. Il est certain que Force ouvrière est majoritaire chez les fonctionnaires, au PTT, dans les finances, enfin un certain nombre de ministères. Alors voyez-vous, au point de vue sociologique, par contre, entre la CGT et la CFDT, il n'y a pas de...
Même quand on monte, si vous voulez, dans les catégories sociales, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être plus... Les cadres CFDT que...
Oh, je ne crois pas. Hein. La CGT a un syndicat des cadres assez important. Hein. CGT a un syndicat de cadres et
su.
Pardon, je vous en prie.
Suivant les secteurs d'activité économique, est-ce qu'il n'y a pas de... Dans certains types d'entreprises, le rapport entre le pourcentage d'adhérents à la CFTC et le pourcentage d'adhérents à la CGT ne varie pas un peu selon les types de...
Et suivant les régions également. Et suivant les régions, vous avez des régions comme les régions du centre, qui sont traditionnellement socialistes, où la CGT ou Force ouvrière sont certainement plus... Je parle du centre, alors l'Auvergne, enfin voyez-vous, le Limousin, ces régions-là, alors là certainement. Et puis, disons au point de vue industrie, qu'on est certainement mieux implanté, enfin la CFDT est certainement mieux implantée dans la métallurgie que dans la chimie, par exemple. Tout au moins dans la chimie traditionnelle. C'est-à-dire, je parle du caoutchouc, encore que chez Michelin à Clermont-Ferrand, maintenant, la CFDT est à peu près à égalité avec la CGT.
Ça tiendrait à quoi, cela?
Comment?
Ça tiendrait à quoi, le fait que la CFDT est plus implantée dans la métallurgie que dans...
Bon, c'est-à-dire, je crois que, si vous voulez, à l'origine, on peut bien dire que le travail dans les usines de... chimie, c'est-à-dire que c'était surtout le caoutchouc à l'origine. À présent, au contraire, c'est une industrie qui demande beaucoup de techniciens. À l'origine, il y avait beaucoup plus de manœuvres, certainement, et alors il est certain qu'à cette époque-là, la CGT recrutait davantage que la CFDT, ou la CFTC à l'époque, dans ce milieu, au point de vue sociologique. N'est-ce pas ? Et alors c'est resté. Je vois par exemple dans le Loiret, il y a à Montargis une usine de pneus, de caoutchouc, Chinson. Eh bien, la CGT est largement majoritaire. Voyez-vous, ici il y a une usine Michelin, mais là, alors le syndicalisme n'y pénètre pas. Problème d'entreprise. Mais sans quoi, dans les usines, dans les laboratoires par exemple, ces laboratoires pharmaceutiques se développent beaucoup. Dans les laboratoires pharmaceutiques, quand on arrive à faire pénétrer une organisation syndicale, là la CFDT tient sa place comme la CGT. Et dans les industries, dans la pétrochimie, dans ces choses-là, maintenant la CFDT n'a pas une position équivalente à celle de la CGT, mais assez proche quand même.
Et alors, quelles sont les industries, par exemple, à Orléans même, où la CFDT a la position la plus faible par rapport à celle de la CGT? Alors, quel type d'entreprise, par exemple?
Bon, voyez-vous, prenez, enfin, c'est pas une industrie là, mais prenez le personnel communal par exemple. Ça représente quand même du monde. Il y a 12 ou 1300 personnes qui travaillent pour le compte de la ville d'Orléans. Nous n'avons absolument aucune implantation. Alors que la CGT a un syndicat. Il y a aussi un syndicat autonome, car il y a un certain nombre de syndicats autonomes. Hein. Au point de vue industrie, je ne sais pas si ici, à part peut-être. Dans le bâtiment, peut-être, on y a encore, vous savez, la syndicalisation en France est quand même relativement peu importante. Hein. Le taux de syndicalisation est peu important. Et encore moins important dans le secteur privé que dans le secteur public. Alors, vous savez, on n'a pas un effectif extraordinaire dans le bâtiment, mais je pense pas que la CGT. Et puis, alors, il y a une différence, si vous voulez. Au point de vue de ce qu'on considère comme un adhérent. Hein. À la CGT, vous savez que sur une carte syndicale, on impose des timbres, mois par mois, n'est-ce pas? Mais à la CGT, on distribue des cartes et on se contente facilement de 3 ou 4 timbres enfin, dans l'année. Alors qu'à la CFDT, on est certainement plus exigeant sur la régularité dans le paiement des cotisations. Alors si on tenait compte du nombre de timbres payés, on serait certainement beaucoup plus près en effectif de la CGT que par le nombre de cartes.
Vous avez dit peu de syndiqués, enfin, la syndicalisation n'est pas encore très poussée en France. C'est surtout ce qui a frappé les Anglais au mois de mai, les effectifs assez réduits finalement des syndicats. Est-ce que vous pourriez peut-être donner des raisons à cela, à la fois
vous savez, avec l'Anglais, hein? Oui, oh. Remarquez, sur le plan local, on se tient dans une nette moyenne. C'est un peu le signe de cette ville. Mais sur le plan national, moi je crois que ça tient au fait que l'industrialisation en France s'est faite quand même plus tard qu'en Angleterre, par exemple. Et puis, il y a toujours eu une moins grande concentration, aussi bien industrielle que de population, en France que en Allemagne ou en Angleterre ou en Belgique. Enfin, vous savez qu'il y a autant de communes en France que dans les 5 autres pays du marché commun réunis, plus la Suisse, plus l'Espagne.
Hein? Le phénomène urbain. Hein?
C'est un des éléments qui est lié au phénomène industriel. Et alors il y a beaucoup de petites... Enfin vous savez que actuellement un des problèmes en France, il se pose un peu partout, mais en France de façon encore plus aiguë, c'est le problème de la concentration des entreprises. Il y a vraiment une multiplicité de petites et moyennes entreprises et qui opposent une résistance beaucoup plus grande à la syndicalisation qu'une grosse entreprise, parce qu'ils jouent les relations humaines, n'est-ce pas, une sorte de paternalisme qui fait qu'il n'y avait pas de tradition, il y avait beaucoup de villes où il n'y avait pas de tradition ouvrière en France. Et c'était le cas à Orléans en particulier. Moi, j'ai vu toute l'évolution qui s'est produite à Orléans depuis 20 ans. Il est bien certain qu'il y a eu une évolution dans ce sens-là. Et moi, je crois que c'est une des causes essentielles, c'est le retard dans l'industrialisation et la dispersion et la taille des entreprises. D'ailleurs, toutes les études qu'on a faites en France, je n'ai pas connaissance d'études à l'étranger, il y en a certainement, montre que plus la taille de l'entreprise est grande, plus le taux de syndicalisation est important. Ça... Ouais, j'ai vu au mois de mai, par exemple, qui a été l'occasion d'ailleurs d'un développement syndical de toutes les organisations. Il y a eu un courant d'adhésion. Là, au mois de mai, il est certain qu'il y a eu un courant d'adhésion. On parle à la CFDT de 200 000 adhésions. La CGT de 300 ou 350 000, enfin voyez-vous, il y a eu un courant important. Eh bien, il y a des entreprises où on allait s'implanter, des petites entreprises, parce que ça a été très, très curieux. Moi, je n'avais pas connu 1936, j'ai connu cette période, ça a été très curieux. On voyait arriver du personnel, tout le personnel d'une entreprise disant syndiqué, parce qu'ils savaient que dans la mesure où ils voulaient discuter avec leur patron, si l'accord était signé avec une organisation syndicale, qu'il était valable. Eh bien, j'ai vu une petite entreprise, par exemple, où ils étaient une vingtaine, ils commencé à s'organiser, le patron a réuni le personnel et puis il leur a dit au bout de quelques jours, vous savez, compte tenu des événements, je vais sans doute être obligé de réduire les horaires et de licencier une partie du personnel. Alors il leur a fait signer à chacun individuellement un papier dans lequel ils disaient qu'ils étaient satisfaits de leur salaire et des horaires qu'ils accomplissaient. Ils ont tous signé sauf un. Alors après il n'était plus question qu'ils se syndiquent, qu'est-ce que vous voulez. Alors il y a des méthodes comme ça qui existent encore, et puis la répression syndicale, je ne sais pas si vous connaissez, alors c'est très instructif dans ce domaine-là, un petit livre de la collection Société. La collection Société, c'est cette collection. Et alors voilà, ce petit livre-là est très intéressant, parce qu'il explique très bien la situation, hein, très très bien. Et il fait la comparaison avec l'étranger. Enfin, le Sir O'Grall, qui a écrit ce livre-là, cite à un moment les faits de répression antisyndicale, et il dit qu'il a posé un jour la question à des dirigeants belges, et qu'ils ont eu beaucoup de temps à mettre pour trouver deux ou trois exemples dans leur pays. Alors qu'en France, regardez même au niveau de l'État, enfin, ce qui se passe en ce moment à l'OFTF, où on a licencié du personnel sous prétexte de compression, mais où il se trouve que c'est uniquement, enfin, qu'il n'y a pas de non-grévistes parmi les licenciés. C'est quand même... et des faits comme cela, enfin... Ici, on en a énormément et beaucoup de difficultés viennent entre employeurs et salariés de gens qui sont sur le point de se syndiquer ou qui se sont syndiqués ou qui ont mené une action tout à fait normale d'ailleurs, pour simplement de défendre leurs intérêts. Mais...
Est-ce que vous pourriez alors peut-être continuer sur cette question de l'entreprise? Les rapports patron-ouvrier dans l'entreprise, selon la grandeur de l'entreprise, les différentes mentalités que cela peut entraîner.
Alors, ça, il y a bien sûr une question de taille de l'entreprise qui joue. Il est certain que la grande entreprise, en général, admet beaucoup mieux l'organisation syndicale. C'est d'ailleurs, j'allais dire, plus intelligent, parce qu'il vaut mieux avoir un interlocuteur que d'en avoir une multiplicité. Donc, quand il y a une organisation syndicale, on sait à qui s'adresser. Encore qu'il existe effectivement un certain nombre de grandes entreprises où le syndicalisme en France rencontre d'assez grosses difficultés. C'est le cas, je vous disais tout à l'heure, de Michelin. Michelin, à part à Clermont-Ferrand où le syndicalisme a réussi à pénétrer, la plupart du temps, chez Michelin, c'est le cas chez Citroën. C'est le cas chez Citroën. Enfin, vous voyez, il y a un certain nombre de grosses entreprises. Mais en général, la grosse entreprise admet très bien l'organisation syndicale. Enfin, elle est moins... C'est l'entreprise familiale, souvent, qui, au contraire, crée des difficultés. Enfin, l'entreprise jusqu'à 150, 200 personnes, 200 salariés.
Et sur Orléans, là.
Alors, sur Orléans... Sur Orléans, nous avons eu des difficultés avec Michelin. On avait réussi à s'implanter au début et il y a eu des difficultés, des camarades licenciés, enfin, ça a coupé l'affaire. Une autre entreprise importante ici, c'est Thermor. Enfin, ça s'appelle la CEPEM. Maintenant, c'est une usine qui fabrique du matériel électro, des appareils électroménagers. J'ai connu de nombreux cas de camarades à qui on a dit il va falloir choisir entre le syndicat et la maison. Où on leur disait ben, on vous nommerait bien à tel poste, mais pour ça il faudrait vous cesser d'avoir des activités syndicales. Et il y a eu aussi là des licenciements de syndicalistes. Alors ça marque. Ce qui fait que sur Orléans, il y a quand même un certain nombre d'entreprises comme celle-là.
Vous pouvez en citer d'autres
sont les principales quand même. Hein. Il y a eu des entreprises où on a une grosse difficulté. Par exemple, dans la confection, chez Beltet. Hein, Beltet, c'est la grosse affaire de confection à Orléans. Eh bien, jusqu'à une période de 2 ou 3 ans, oui, 2 ou 3 ans, dès qu'il y avait des velléités de démarrage d'organisation syndicale, il n'y avait rien à faire, c'était coupé. N'est-ce pas? Alors que là, depuis 2 ou 3 ans, on a réussi en mettant en place une équipe qui a obtenu des élections de délégués, donc une certaine protection à partir de ce moment-là, puisqu'il existe une protection légale. Maintenant, le syndicat est implanté et pour la première fois, il y a eu des grèves chez Beltet depuis 1 an, quoi, à peu près. Alors qu'avant, c'était la porte à terme, bien sûr, parce qu'on ne met pas les gens dehors en disant vous avez fait grève, on trouve toujours un autre prétexte. Alors, une autre entreprise où nous avons eu beaucoup de mal à pénétrer, c'est les galeries orléanaises. Noveco, le grand magasin qui est près des Halles et qui occupe quand même...
Une nouvelle galerie,
c'est ça, oui. Ah oui, ça, on a eu beaucoup de mal à pénétrer. Là aussi, il y a eu beaucoup de pressions qui ont été faites sur les gens qui... Alors, je dis, les pressions prennent deux formes, ou bien des menaces, ou bien la promotion.
C'est assez étrange, Belle Galerie, on a l'impression que la direction se veut moderne.
Oui, oui, bien sûr, oui, mais à condition que ça ne crée pas des difficultés, vous comprenez, il n'y aurait certainement eu aucune difficulté à avoir un syndicat autonome. C'est pas, il y avait des élections de délégués où personne ne se présentait au premier tour, et comme la législation prévoit au second tour, il n'est pas nécessaire d'appartenir à un organe syndical pour se présenter, il y avait des candidats qui se présentaient, mais qui, si vous voulez, étaient certains qu'ils ne poseraient pas de problème à la direction, ils s'occuperaient de la gestion d'un certain nombre de sociales, et puis c'est tout.
Est-ce que ce serait, vous voyez, une forme de paternalisme?
Ah oui, certainement, certainement, ah oui. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais il y a quelques années, les galeries orléanaises n'étaient pas adhérentes au syndicat patronal de leur branche. Ce qui fait que lorsqu'on signait une convention collective avec le syndicat patronal du commerce, elle n'était pas applicable aux galeries. Alors, d'ailleurs, au mois de mai, là, le syndicat était en place depuis plusieurs mois, on avait un syndicat en place. Dans l'entreprise. On avait un syndicat en place dans l'entreprise et alors, au mois de mai, les responsables ont commencé à discuter avec la direction pour obtenir un certain nombre de choses, en particulier sur le plan des libertés syndicales. Et au début, c'était le lundi qui précédait la fête de l'Ascension. Alors le lundi, le mardi, enfin les discussions semblaient très bien marcher, mais on se refusait toujours à aboutir, alors qu'il n'y avait pas de grève, n'est-ce pas? Alors le mercredi matin, on a su qu'il y avait une grande effervescence dans le personnel, parce qu'il commençait à s'énerver, et à 2 heures, les responsables syndicaux ont fait une démarche auprès du patron pour lui demander s'il était décidé à signer. Il leur a dit que non. Et le personnel a voté la grève. Et ils ont été en grève l'après-midi, et le soir, l'accord était signé. Ça, c'était la première fois qu'il y avait une grève aux galeries orléanaises. Et alors, évidemment, on a senti que dans le personnel, c'est une espèce de libération de voir que par eux-mêmes, ils avaient obtenu satisfaction. Parce qu'on a cherché à leur faire comprendre, c'est que le syndicat, ça n'est rien si les travailleurs ne sont pas eux-mêmes dans le coup. Syndicat, tant que le syndicat, il est là comme intermédiaire, mais il ne peut pas imposer, c'est les travailleurs eux-mêmes qui peuvent imposer la conclusion. Alors les laboratoires aussi, où on a de grosses difficultés, par exemple au laboratoire Sandoz, une personne qui était... déléguée dans cette entreprise, depuis très longtemps, elle travaillait assise, parce qu'elle avait les jambes quand elle a été élue déléguée sur une liste syndicale. Tant qu'elle a été élue déléguée sur une liste indépendante, elle n'a pas eu de difficulté. Le jour où elle a été élue déléguée sur une liste syndicale, on l'a remise à un poste debout. Alors vous comprenez pourquoi la syndicalisation est très faible. Ça incite les gens à se débrouiller par leurs propres moyens. Le système des... D'ailleurs, la variété des salaires dans une même entreprise à des postes identiques, c'est quelque chose d'extraordinaire.
Et alors, toujours sur Orléans, quelles seraient les entreprises importantes où les facilités accordées aux syndicats sont les plus importantes?
C'est-à-dire que, soit qu'ils aient réussi à s'imposer, soit que la direction soit plus compréhensive. Parce que je pense par exemple à une entreprise où le syndicat joue très bien son rôle, c'est l'établissement Malichaud. Parce que vraiment, le syndicat s'est imposé. Alors là, il y a un taux de syndicalisation de près de 50%. N'est-ce pas ? Je pense également, malgré que ce soit l'entreprise où la grève a commencé en premier, à Unelec, à Saint-Jean-de-Bray, qui est une usine du groupe de la Compagnie Générale d'Électricité. Sans quoi, fois le syndicat est admis dans beaucoup d'entreprises et on le reconnaît comme interlocuteur, à la régie Renault par exemple, à une filiale de la régie Renault qui est en face de l'usine de la régie Renault, les coussinets minces, même à Montargis, chez Hutchinson, le syndicat arrive à jouer son rôle. À l'autre, dans l'autre magasin, là, chez Francis, on a eu moins de difficultés, c'est vrai, les syndicalistes ont eu moins de difficultés.
Cela va créer des mentalités ouvrières assez différentes.
Ben, vous savez, je ne sais pas moi à quoi ça tient, si ça tient au fait que le département n'a pas une grande tradition ouvrière, mais il y a beaucoup de gens qui se plient à cette situation. On a l'impression que surtout, il n'y a pas, même chez les ouvriers, il y a une certaine résistance à faire corps. Je ne sais pas, une espèce de le travail manuel, je ne sais pas ce qu'il en est du tout en Angleterre, mais le travail manuel en France a été très dévalué parce que on l'a toujours considéré comme une tâche inférieure, aussi bien dans la tâche elle-même que dans la rémunération qu'on lui apportait. N'est-ce pas ? Alors, si vous voulez, beaucoup de gens souhaitent sortir de cette condition ouvrière parce qu'elle a longtemps été considérée comme quelque chose d'inférieur. Ça diminue maintenant beaucoup parce que beaucoup d'ouvriers sont des techniciens, ont besoin d'une formation professionnelle, ça s'atténue, mais ça se retrouve encore beaucoup. Mais il n'empêche que depuis 5 ou 6 ans, on a senti se créer quand même, s'étendre, certaines solidarités chez les salariés dans l'agglomération orléanaise. Et même avant les événements du mois de mai, on a vu des gens, si vous voulez, les 10 ou 12 premières années où j'étais militant ici, jamais j'avais vu de manifestations importantes en ville. Alors que depuis 5 ou 6 ans, on a senti que les gens... Et c'est pas qu'ils avaient peur, c'était une espèce de complexe de dire manifester, ça a l'air de reconnaître qu'on est dans une situation inférieure. Oui.
Et est-ce que vous pourriez nous dire si les catégories d'ouvriers qui étaient autrefois les plus revendicatifs, sont encore maintenant revendicatifs, ou sinon, est-ce qu'il y a de nouveaux types d'ouvriers dans de nouveaux secteurs d'industrie qui ont pris la relève, si vous voulez. Enfin...
Ben, je crois qu'effectivement, le secteur le plus combattu, ça a toujours été, et c'est encore, à mon avis, la métallurgie. Enfin, ça dépend ce qu'on entend par combatif. Parce que le syndicalisme en France est très anarchique, ou anarchisant, si vous voulez, parce que on accepte pendant très longtemps une situation qui ne convient pas, on ne se syndique pas, et puis un jour on se met en colère. Alors là, il y a un afflux d'adhésion, un afflux vers les organisations syndicales, on obtient un certain nombre d'avantages, et puis petit à petit ça se désagrège et ça recommence, n'est-ce pas? Alors, dans des périodes comme celle-là, peut-être que les plus virulents, ce ne seront pas les gens de la métallurgie, encore qu'ils le sont assez. Peut-être les gens du bâtiment. Par contre, les gens qui mènent une action syndicale quotidienne et organisée, le mieux, enfin, c'est certainement la métallurgie. La chimie maintenant aussi. Et la métallurgie et la chimie.
Et plutôt dans l'entreprise moderne ou bien dans l'entreprise relativement archaïque?
Tu sais, ici, il n'y a pas une grosse... Je crois que sur le plan national, hein, je pense que ce serait plutôt dans les entreprises modernes que l'action syndicale serait la plus structurée. Ici, on n'a pas d'entreprise de particulièrement moderne, ni trop vétuste. Enfin, maintenant, tout ça, ça s'est un petit peu nivelé. Hein. Je vous disais Malichaud tout à l'heure, bien certain que c'est une entreprise moderne. C'est une entreprise de mécanique qui travaille pour le fonds de... ça fait partie maintenant du groupe Hispano, ils travaillent pour toutes les questions de fusées, enfin, ils font des choses comme celle-là, et c'est certainement une des usines où le syndicalisme est le plus dynamique. Puis il y a des questions d'hommes qui jouent aussi, enfin d'hommes, je parle de militants qui sont des organisateurs, qui sont des gens qui savent entraîner leurs camarades. Puis il y a beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises anciennes, mais qui ont su se moderniser. Quoi. Je pense à Rivière-Casalis, par exemple. Rivière-Casalis fabrique des machines agricoles. Eh bien, c'est une entreprise qui est ancienne, mais qui s'est modernisée. Eh bien, le tonus syndical est plus faible chez Rivière-Casalis que chez Malichaud, alors que techniquement, ça se vaudrait un peu
plus. Et si vous voulez, alors, selon les catégories d'ouvriers, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a une différence entre la mentalité plus ou moins revendicative des ouvriers non qualifiés et des ouvriers qualifiés?
Je crois que l'ouvrier qualifié, et ça c'est pas spécial alors à la région orléanaise, est généralement beaucoup plus porté à se syndiquer que le manœuvre. Hein, et prend certainement plus de responsabilités dans l'organisation syndicale, ce qui explique un peu le faible taux de syndicalisation dans le bâtiment qui est resté quelque chose en France. Là maintenant ça commence à se moderniser, on va bientôt pouvoir parler d'une industrie du bâtiment, mais jusqu'ici c'était resté très artisanal. Alors ça expliquerait assez, voyez-vous. Maintenant évidemment il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a énormément d'étrangers dans le bâtiment en présent en France. Espagnols et portugais ici, il y en a beaucoup.
Ils sont syndiqués?
Peu. Pour des raisons diverses d'ailleurs, mais enfin un peu. Les Espagnols enfin, restent marqués par un certain nombre de divisions qui sont nées chez eux pendant la guerre civile. Quand même une grosse difficulté entre les communistes et les anarchistes.
Nous avons remarqué qu'il y avait des journaux syndicalistes, CGT, qui étaient en langue portugaise. En langue
nous on tire quelquefois des tracts. Et puis alors sur le plan national, nous avons des journaux qui sont édités en portugais et en espagnol aussi.
Est-ce que le SAIKEF fait un effort pour ce plan éducatif?
Ah oui, certainement. Ah oui. Enfin, c'est-à-dire que le syndicat n'organise pas des cours, si vous voulez, de français. Il y a une association ici qui s'occupe, qui s'appelle Culture et Promotion, je crois, ou Accueil et Promotion. Accueil et Promotion, qui organise des cours pour les étrangers. Les organisations syndicales ne font pas. Ça tient un peu au fait que l'organisation syndicale est faible. On est, comme elle est faible en adhérents, elle est faible en militants. Et les militants sont obligés de consacrer leur temps à la tâche purement syndicale d'organisation, de formation, mais alors de formation sur le plan économique et social, n'est-ce pas ? Et non pas, c'est certainement dommage, mais enfin, je crois que...
Le syndicat ouvrier ne peut pas demander au syndicat des professeurs, par exemple, ou instituteurs de...
Si, certainement. Enfin, je vous dis, enfin, ici, le problème ne s'est pas posé, en sens que, effectivement, parmi les gens qui font partie de cette association qui s'appelle Accueil et Promotion, il y a un certain nombre de militants syndicalistes. Ah. Mais qui ne font pas en tant que tel, n'est-ce pas? Qui font en tant qu'homme, quoi.
Quand vous employez le terme ouvrier, qu'est-ce que ça recouvre exactement?
Pour moi, si vous voulez, ça va assez haut dans la hiérarchie professionnelle, dans la qualification professionnelle, n'est-ce pas? Je pense que pratiquement ça recouvre tous ceux qui ont une tâche surtout manuelle. Mais il est bien certain que quand on parle de mentalité ouvrière, nous souhaitons que un certain nombre d'employés, enfin si vous voulez, ce serait plus large à ce moment-là. Mais c'est toujours pareil, il y a un certain nombre de gens qui par le travail qu'ils font veulent pas dire j'appartiens à la classe ouvrière. Pour moi, volontiers, la classe ouvrière, c'est tous les salariés. Par contre, pour beaucoup, ils admettent d'être syndiqués, mais le mot ouvrier les choque. Hein, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure. Ça recouvre.
Et alors à Orléans, quels seraient les différents types d'ouvriers qu'on trouve? Vous avez remarqué des quartiers très différents.
Oui, je crois qu'une des choses qui est les plus caractéristiques ici, c'est le fait que peu d'ouvriers sont ouvriers depuis plusieurs générations. Hein, mais presque tous les ouvriers, si vous remontez à une ou deux générations, vous retrouvez des paysans. Hein. Alors, je crois que ça c'est une des caractéristiques. Hein. Et il y a certainement une coupure difficile à combler entre ceux qui ont vraiment une tradition ouvrière et ceux qui sont soit à la première ou à la deuxième génération seulement dans l'industrie. Ça et alors on trouve encore des gens qui sont à la fois ouvriers et puis qui ont encore une petite exploitation agricole. C'est très fréquent chez Michelin par exemple. L'usine Michelin est à la chapelle Saint-Mémin. J'ai un camarade un jour qui a voulu prendre contact avec quelques ouvriers de chez Michelin. Alors il est allé les voir dans tous les petits pays environnants. Et je crois que dans la journée, il en a trouvé trois sur leur tracteur. Ou un motoculteur. Enfin, voyez-vous.
L'ouvrier a son jardin.
Ah, mais plus qu'un jardin, là. Hein. Il y en a quelques-uns qui ont gardé 2 ou 3 hectares de champs. Et alors, la femme travaille beaucoup sur l'exploitation agricole. Et puis, comme ils font des horaires, qui sont des horaires de 6h du matin à 2h de l'après-midi, par exemple, eh bien, l'après-midi... C'est pas que si vous avez une idée sur les conditions de travail dans les entreprises en France. Parce que nous avons, nous, une amie qui est allemande, enfin, qui s'est mariée avec un Français il y a quelque temps, et qui travaille dans une entreprise française, et qui a travaillé en Allemagne. Elle est secrétaire trilingue, elle parle anglais, allemand et français très bien. Eh bien, elle dit, vous, les Français, vous travaillez trop. Elle dit, vous, les Français, vous travaillez trop. Le rythme de travail, les horaires...
C'est pourtant l'inverse que, dans l'imagination populaire, c'est les Allemands travaillent énormément, beaucoup plus que...
Alors, voyez-vous, je vous parlais des établissements Malichaud tout à l'heure. Ah non, la moyenne, enfin, ça, statistiquement, il est incontestable que dans les pays du marché commun, la moyenne de hebdomadaire du travail, c'est en France qu'elle est la plus élevée. Hein. Et M. Malichaud, qui maintenant n'est plus le directeur de l'entreprise, je vous dis, c'est passé sous la coupe d'Hispano, est président de l'Union des industriels. C'est un homme qui doit avoir entre 60 et 65 ans. Il y a 2 ans, en tant que président de l'Union des industriels, il est allé faire un voyage en Allemagne. Et en revenant, il a dit au responsable syndical, et pour qu'il l'ait dit au responsable syndical, il fallait que ça l'ait frappé, il a dit, je ne comprends rien. En Allemagne, les ouvriers sont mieux payés, ils travaillent moins, et les entreprises vendent moins cher.
Et on lui a expliqué ?
Ah ben oui, bon, le responsable syndical a essayé de lui expliquer.
Si vous pourriez nous expliquer ?
Ben il y a des problèmes d'abord. Merci. Alors il y a des problèmes d'organisation. Mais il est bien certain que ça tient un peu aussi à ce retard qu'il y a eu dans l'industrialisation en France. Des problèmes d'organisation. Il y a des problèmes de dispersion des entreprises qui sont très, très importants. Il y a des problèmes, moi je pense également, de frais généraux très élevés. Et je ne sais pas du tout, alors là, ce qui peut se passer dans d'autres pays étrangers, mais enfin ce qui me paraît très frappant, c'est que beaucoup d'entreprises françaises étaient encore, il y a 7 ou 8 ans, des entreprises familiales. Eh bien, systématiquement, si le ou les enfants n'étaient pas capables de faire autre chose, on les gardait dans l'entreprise. Mais pas forcément, mais certainement pas à un poste d'exécution, mais à un poste de direction avec la rémunération correspondante et aussi les inconvénients que ça présentait sur l'organisation de l'entreprise. Ce qui explique d'ailleurs, à mon avis, qu'en France, on ait vu très souvent des entreprises extrêmement florissantes pendant une ou deux générations, et puis qui sombraient complètement, pas seulement pour des motifs d'ordre économique, n'est-ce pas, mais parce que la génération qui avait suivi n'avait pas su s'adapter, n'est-ce pas. Enfin, je vous parlais des établissements Belletet tout à l'heure, n'est-ce pas. On en est à la deuxième génération qui est celle qui a donné son plein épanouissement, mais cette deuxième génération a des enfants qui sont maintenant dans l'entreprise, puisque la responsable syndicale me disait l'autre jour que dans les moments du mois de mai ou juin, quand elle a discuté avec la direction, il y avait 7 belles têtes autour de la table. Hein? Eh bien, vous comprenez, d'abord, il n'est pas certain qu'on n'ait pas créé un peu un certain nombre de postes pour donner une situation, n'est-ce pas. Et puis deuxièmement, il n'est pas certain non plus que tout le monde ait la capacité, alors c'est pas héréditaire, la capacité de gérer une entreprise, n'est-ce pas. On est très, en France, très, très sensible à ces questions d'hérédité, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, hein, mais surtout dans le sens de si le père est notaire, le fils doit être notaire, si le père... Enfin, moi je vois, je n'ai ni frère ni sœur, mon père était une petite entreprise de plomberie et de couverture à Beaugency, à 25 km d'ici, Combien j'ai entendu de gens trouver très drôle que je n'ai pas pris la succession de mon père. Mais très fréquemment, hein, très très fréquemment. Hein, et dans ça ne m'intéressait pas.
Dans la classe ouvrière, est-ce que ça joue dans la mesure où les gens...
Au contraire, alors là,
pour leurs enfants.
On essaye quand même, inversement, on entend très fréquemment la réflexion, je voudrais que mon fils ou ma fille connaisse une vie moins pénible que celle que j'ai connue, quoi.
Ils ne connaissent pas les mains, c'est ça.
Oui.
Mais alors, est-ce qu'ils s'en tiennent quand même à des buts modestes, plus modestes dans...
Ça a certainement été vrai pendant longtemps par la force des choses, parce que vous savez que la proportion d'enfants d'ouvriers est quand même très faible dans l'université en France. Ça devient de moins en moins vrai, mais si vous prenez le pourcentage que représente chaque catégorie sociale dans l'ensemble de la population, et le pourcentage que représente chaque catégorie sociale à l'université, il y a une différence... considérable, une différence très très importante. Alors maintenant ça joue beaucoup moins, et puis il y a quand même un certain nombre de facilités qui sont données, de bourses, et puis je vois dans l'administration, moi, je suis fonctionnaire des impôts, et bien parce que le recrutement était très très faible au niveau on a 4 cadres. Cadre A, B, C, D. L'administration en général en France, et ces 4 cadres, cadre A qui est recruté au niveau de la licence, B au niveau du baccalauréat, C du brevet, et D sans qualification particulière. Et bien au niveau du cadre A, on a, il y a quelques années, il y avait 2500 postes vacants sur 15 000 postes théoriques. Qui est quand même très important pour l'ensemble de la France. Alors, on a pris des mesures qui ont consisté à offrir une rémunération à des jeunes titulaires du baccalauréat pour préparer le concours d'inspecteur des impôts et leur première année de licence. Et une fois qu'ils sont reçus au concours d'inspecteur des impôts à leur première année de licence, ils poursuivent leurs études juridiques en faculté, tout en suivant des cours professionnels, donc ils sont rémunérés, ce qui fait que ça donne des facilités pour poursuivre les études. Évidemment, ça oriente vers une carrière déterminée. Eh bien, je vois le recrutement, puisque ici, il y a des centres régionaux. Et ici, il y a un centre d'études. Eh bien, le recrutement, maintenant, se fait assez largement dans des milieux ouvriers ou paysans, petits paysans. D'ailleurs, le critère qu'on doit retenir, un des critères qu'on doit retenir, c'est que si la situation de fortune des parents leur permet de faire poursuivre leurs études aux enfants, on prend de préférence ceux qui auraient difficulté à continuer pour des raisons financières.
Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de l'irresponsable syndical. Quel est le rôle des femmes?
Eh bien, ça dépend des entreprises. Vous avez des entreprises à personnel essentiellement féminin, comme la confection. Incontestablement, là, les femmes jouent leur rôle au niveau professionnel, au niveau de l'entreprise, disons. Au niveau de l'entreprise, par contre, voyez-vous, je vois un syndicat comme le syndicat de la métallurgie. Il y a quand même un certain nombre de femmes qui travaillent dans la métallurgie. Elles se syndiquent moins. Et elles ne prennent généralement pas de responsabilité syndicale. Ça s'explique par le fait qu'elles ont souvent des difficultés matérielles, en le sens qu'elles ont leur famille à s'occuper. Par contre, dans les secteurs où il y a vraiment beaucoup de femmes, dans les secteurs, par exemple, je pense au personnel de la sécurité sociale, voyez-vous, eh bien là, il y a un certain nombre de femmes qui prennent des responsabilités syndicales, dans les syndicats de fonctionnaires également. Bon. Si on prend le plan interprofessionnel, vous voyez, il y a une union départementale CFDT qui est menée par une commission exécutive de 7 ou 8 membres, Il y a deux femmes quand même dans la commission exécutive, une qui est employée de sécurité sociale justement, et l'autre qui travaille à la mutualité sociale agricole, vous voyez, et une qui est célibataire, l'autre qui est mariée.
Hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas une attitude enfin, des hommes, par exemple?
Ça existe, je comprends, qui écarte un peu systématiquement, ça existe certainement, mais je crois que de moins en moins, et puis le fait, c'est peut-être pas des sentiments très nobles, mais enfin le fait qu'il y a peu de militants fait que si vraiment des femmes veulent prendre des responsabilités dans l'organisation syndicale, elles ne rencontrent aucune difficulté de ce côté-là.
Il est beaucoup question en ce moment, ce matin encore, de Vision du Monde, du droit syndical en France. Est-ce que ça surprend beaucoup les Anglais pour quel droit syndical?
Mais parce qu'il n'existe pas actuellement. Hein. Si vous voulez, par exemple, je me souviens, moi, de la phase débutée de la grève dans l'administration où je travaille. J'ai demandé au directeur l'autorisation que les organisations syndicales réunissent l'ensemble du personnel dans une salle de l'administration. Il nous a accordé l'autorisation. Mais j'ai bien souligné au début de la réunion que ce n'était qu'une tolérance, ça n'était pas un droit. On n'a pas le droit de se réunir, on n'a pas juridiquement le droit de se réunir dans l'entreprise. Alors ça c'est très important, surtout maintenant, parce que si on faisait une carte des résidences du personnel dans une administration, dans une usine, avec des flèches montrant où ils habitent, n'est-ce pas, et on s'apercevrait qu'il y a de plus en plus une grande dispersion. Et que, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, dès qu'ils sont sortis de leur travail, les gens souhaitent, quelquefois d'ailleurs ils sont bien contraints, parce que prenez des entreprises qui font le ramassage du personnel, eh bien, reprendre garde, et puis c'est fini, il faut repartir, n'est-ce pas? Et donc, si on n'a pas le droit de réunir le personnel dans l'entreprise, même s'il n'y a pas rémunération du temps de réunion, eh bien, évidemment, l'organisation syndicale a beaucoup de mal à se développer. Si, par exemple, vous voulez collecter les cotisations syndicales, c'est pareil, ça peut se faire dans l'entreprise, mais ça n'est pas permis. On peut licencier un ouvrier parce qu'il a collecté les cotisations syndicales dans l'entreprise. On ne peut pas vendre la presse syndicale dans l'entreprise, on ne peut pas distribuer des tracts dans l'entreprise, on les distribue à la porte. Et comme il arrive que la municipalité prenne un arrêté interdisant de distribuer des papiers sur la voie publique, vous ne pouvez même plus en distribuer, si elle le faisait respecter. Hein? On a été très heurtés, nous ici, il y a quelques mois, quand la municipalité a pris un arrêté comme celui-là, parce que on s'est dit, s'il est appliqué, on ne pourra plus distribuer de tracts. Oui, vous êtes ou dans l'entreprise ou sur la voie publique, mais il n'y a pas de zone, il n'y a pas de no man's land.
Qu'est-ce qui est fait par votre syndicat pour établir ce droit syndical?
Et il faut d'abord faire une prise de conscience des gens, parce qu'il y a beaucoup de tolérance. Bon, les cotisations syndicales, on les collecte quand même dans l'entreprise. Les journaux syndicaux, on arrive à les vendre dans l'entreprise. Et puis, tant qu'il n'y a pas de trop gros problèmes, on ne dit rien, n'est-ce pas? Alors, il y a beaucoup de tolérance, comme celle-là, qui masque le droit, n'est-ce pas? Je vois, par exemple, en ce qui concerne les horaires dans l'administration, les fonctionnaires sont tenus à un horaire de 45 heures. Eh bien, il est certain que peu d'administrations respectaient cet horaire de 45 heures. Et ce qui fait que quand on a mis dans nos revendications au mois de mai la réduction de la durée du temps de travail, un certain nombre ne comprenaient pas. Et je crois que les tolérances masquent beaucoup le droit.
Est-ce qu'il y a des différences entre les syndicats sur ce problème du droit syndical et...
Eh bien, je pense qu'effectivement, on est plus attaché à ce problème à la CFDT parce qu'on estime que c'est capital pour l'avenir du syndicalisme qu'à la CGT. Ah oui, certainement. Certainement que...
Pourquoi?
Je sais pas, hein, mais il est certain que, voyez-vous, dans les négociations du mois de mai, si on est resté assez amer sur les résultats, c'est que pratiquement il y avait deux types de revendications. Il y avait des revendications d'ordre matériel, très justifiées pour les gens qui avaient de faibles rémunérations, et puis il y avait des revendications, disons, de respect de la personne, quoi, et de droit. Eh bien, on peut dire que dans certains cas, le gouvernement et le patronat a fait de la surenchère sur les revendications matérielles, mais par contre a complètement bloqué. Vous verrez plus facilement un patron donner une augmentation de salaire que de donner l'autorisation à son personnel de se réunir une heure par mois dans l'entreprise.
En général, les ouvriers préfèrent quel genre de...
Eh bien, ils sont très sensibles aux revendications matérielles. Bien certain qu'il y avait, il y a eu, surtout à la fin des événements du mois de mai, une coupure entre une partie des travailleurs et les militants sur ces questions-là, parce que beaucoup de travailleurs qui ne sont pas syndiqués, pour eux, il y avait uniquement le problème, disons, de rémunération, de temps de travail, et encore plus de rémunération que de temps de travail qui a joué. Alors, je crois aussi, si vous voulez, que sur le temps de travail, par exemple, c'est un problème sur lequel beaucoup d'ouvriers ne sont pas sensibilisés, parce que ils n'ont pas les possibilités, je ne parle pas seulement financièrement, mais même intellectuellement, d'utiliser vraiment des loisirs. Et alors, ça bloque un peu la réduction du temps de travail, parce que certains préfèrent faire un horaire plus important, gagner davantage, n'est-ce pas? Parce que les loisirs, ça ne les intéresse pas. Hein? Vous savez que la France est un des pays où les bibliothèques sont le moins fréquentées. Ça, enfin, c'est quand même...
Vous avez des causes à cela?
Je sais pas, moi je...
Est-ce que c'est peut-être l'influence de la campagne où les loisirs n'existent pas?
Ça a joué certainement beaucoup parce que il y a quelques années, la majorité de la population active était une population rurale, n'est-ce pas? Une population paysanne. Alors ça a certainement joué. Et puis, vous savez, le fait aussi que, enfin, je crois que jusqu'en 1944, la scolarité était obligatoire que jusqu'à 12 ans. Hein. Mais vous savez, une scolarité obligatoire jusqu'à 12 ans, quand on est rentré au travail aussitôt après, sans formation, parce que maintenant les cours professionnels comportent de l'enseignement général, mais avant ils n'en comportaient pas, eh bien, tout ça s'évacue, toute connaissance s'évacue, et on trouvait au moment du service militaire beaucoup d'illettrés qui à ce moment-là avaient été en classe jusqu'à 12 ans, mais au moment du service militaire on trouvait beaucoup d'illettrés, et pas seulement dans la population paysanne mais même dans la population ouvrière. Ah oui, oui.
Loisirs pour un syndicaliste, ça représente...
Pour nous, ça, actuellement, ça nous paraît un problème très important. Ça nous paraît un problème très important parce que je crois qu'on est très sensible au problème de l'évolution de la civilisation actuelle. Or, on pense que de moins en moins, les gens trouveront leur épanouissement dans leur travail. Parce qu'il y aura beaucoup de tâches qui ne seront pas intéressantes, enfin qui ne seront pas... je vois par exemple dans ma profession, là, aux impôts, on va instaurer des centres mécanographiques, il y en a, mais on va les développer beaucoup. Eh bien, il y a une grande partie du personnel qui sera employé après à codifier simplement des déclarations. C'est pas un travail qui peut permettre aux gens de s'épanouir, n'est-ce pas? Par contre, vous aurez une catégorie, enfin, c'est peut-être une opinion personnelle, mais on pense qu'il y aura une catégorie de gens qui, au contraire, auront un travail extrêmement passionnant. Enfin, moi, personnellement, le travail que je fais m'intéresse beaucoup. Hein, je m'occupe surtout de questions économiques, de statistiques fiscales sur la région, avec les implications économiques qu'on peut en tirer. Je fais des cours d'économie politique à nos stagiaires qui sont au centre d'études. Je m'occupe des dossiers pour la décentralisation industrielle au point de vue fiscal. Enfin, c'est des choses qui, si vous voulez, personnellement, ça m'intéresse. Mais je crois que de moins en moins ce sera vrai. Je vois, on a déjà des bureaux chez nous où les gens font du travail à la chaîne. Font du travail à la chaîne, assis dans un bureau. Dans un bureau. Et un bureau, là, dont je suis responsable, où il y a 8 personnes, c'est un travail à la chaîne. C'est un centre de duplication. Un centre de duplication. Alors, les actes des notaires ou les actes sont enregistrés sur du papier translucide. Et pour toute la région, on nous envoie ces actes. Et alors, évidemment, si vous habitez Orléans et que vous achetez un immeuble à Marseille, par l'intermédiaire d'un notaire d'Orléans, eh bien, il est important du point de vue fiscal que Marseille soit prévenue, n'est-ce pas? Alors, tous ces actes-là sont exploités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui déterminent combien il faut faire de duplications, et puis ensuite, il y a une machine où on passe 40 000 feuilles de papier par mois qui fait les duplications, puis après, on remet en clair à qui c'est destiné, et puis après, il y a tout un... comme dans un bureau de poste, là, on ventille tous ces papiers, c'est du travail à la chaîne, c'est pas du travail... Et ça, à mon avis, ça se généralisera. Prenez le travail des gens qui sont mécanographes. C'est pas un travail qui peut être épanouissant. Alors, compte tenu de ça, on estime que beaucoup de gens auront besoin de trouver leur épanouissement en dehors de leur travail. Et en conséquence, on attache beaucoup d'importance au loisir. Or, ce que l'on pense à la CFDT, c'est que ce qui serait grave, c'est que les loisirs deviennent une affaire commerciale. Parce que l'aspect culturel, l'aspect épanouissement, justement, risquerait d'être laissé de côté, c'est ça.
Qu'est-ce que vous pensez de la maison de la culture?
Remarquez, nous sommes favorables à son développement, n'est-ce pas? Et a eu des contacts avec Katian et il est tout à fait d'accord. Il souhaiterait même qu'on ait beaucoup plus de contacts avec lui pour les mêmes raisons que celles que je vous indiquais tout à l'heure. Parce que nous sommes peu nombreux, on n'y consacre pas tout ce qu'on voudrait, mais on souhaiterait avoir beaucoup plus de contacts pour justement essayer de faire saisir que on ne peut pas faire passer n'importe quoi, hein, que tout le monde n'est pas prêt à recevoir soit une exposition de tableau, soit une exposition de sculpture, soit une pièce de théâtre qu'il faut. Par exemple, voyez-vous, au moment du 1er mai, on a demandé à la Maison de la Culture, à la Comédie d'Orléans, de nous donner une pièce. Alors, ils nous ont donné quelque chose. Et effectivement, on a discuté après avec eux de ce qui aurait été nécessaire d'expliquer avant, n'est-ce pas, qu'il n'y ait pas de difficultés pour des gens qui n'ont pas une culture de base. Alors, eux, ils sont très ouverts, hein, ces problèmes-là, hein, mais on a trop peu de contact avec eux, et alors ce que l'on craint, c'est que justement... il y a tout de suite un certain niveau qui soit atteint qui ne permette pas à beaucoup de gens d'en profiter.
Quelle était la pièce?
Eh bien, c'était une adaptation moderne de... comment ça...
d'Antigone,
c'est ça. Alors, il aurait fallu, vous comprenez, qu'on explique avant quel était le problème d'Antigone. n'est-ce pas?
Ceci se pose à tous les niveaux, même avec nos étudiants.
Oui, alors, bien sûr, ah, mais la pédagogie, c'est très difficile. Hein. C'est très difficile.
Et quelle était la réaction? Il y avait donc des ouvriers.
Ah oui, à ça, on a eu. On avait fait ça dans une salle où il y avait à peu près 300 places, la salle était à peu près pleine, quoi. Et c'était des milieux. C'était des salariés, mais il y avait des ouvriers. Et alors, si vous voulez, ils ont beaucoup aimé la façon dont ça a été interprété, le contact que l'on avait avec la troupe, n'est-ce pas? Après, on s'est réunis à la Maison de la Culture, enfin, ceux qui ont voulu sont allés à la Maison de la Culture, et il y avait là des gens de tout milieu, parmi les salariés, et il est bien certain qu'on a fait surtout ressortir cette difficulté.
C'était une salle dans une usine?
Non, au CRDP, là, au centre. Ouais. Vous voyez la salle qui est... Vous connaissez le CRDP, alors c'est la salle, c'était là. Alors là, ça facilite le contact, voyez-vous, parce qu'il n'y a pas de rideau. Ouais. Hein,
Et les ouvriers parlaient, n'avaient pas peur de parler
Oui, parce que le débat s'est fait, il restait une cinquantaine de personnes pour le débat. Alors... Oui, puis il y avait un certain nombre de militants qui sont déjà plus en recherche. Hein. Mais même d'autres sont intervenus. Oui.
Ce serait intéressant pour nous, comme enregistrement, un tel débat. Voilà.
Ouais. Est-ce qu'il y a des ouvriers qui fréquentent la Maison de la Culture?
Oh, oui, certainement. Maintenant, la proportion doit être loin d'atteindre la proportion qu'ils représentent dans... population orléanaise. Il y a une espèce de complexe hein, qui joue. Enfin, vous y êtes allé à la Maison de la Culture. Si vous faites rentrer une population dans une pièce, dans une salle, hein, alors une population très variée, hein, comprenant, les ouvriers vont toujours s'asseoir au fond de la salle. Hein? Bon. C'est automatique. Bon. À la Maison de la Culture, il y a très peu de place. Hein, dans la pièce d'accueil, là en bas, il y a très peu de place. L'ouvrier qui rentre là et qui voit que presque toutes les places sont déjà occupées, il fait le tour de la salle et il n'aura pas, enfin souvent, dans la majorité des cas, il n'osera pas. Hein.
Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu si toutes les places ne sont pas occupées, par exemple, s'il en reste quelques-unes?
Oui, ben, je crois qu'il ne se sent pas à son aise. Hein. Il se sent pas, c'est pas son milieu habituel. Il fait une espèce de complexe, quoi. Il se dit... Ça sera de moins en moins vrai, remarquez, je crois, au fur et à mesure que l'enseignement permettra aux jeunes... d'avoir une formation plus poussée. Hein.
Est-ce qu'il y aura des problèmes dans l'aspect extérieur pour l'ouvrier?
Oh non, non, parce que maintenant, voyez-vous, l'ouvrier qui revient de son travail, il est souvent en complet veston. Hein, non, je crois pas. Je crois que c'est plutôt psychologique. Hein.
Et de décoration de la maison, par exemple.
Je ne crois pas, voyez-vous, que ce soit ça. Hein, parce que...
À quoi alors, plutôt?
Non, mais je vous dis, il a le sentiment que... Mais même le fait, si vous voulez, ça, on ne peut pas le reprocher, qu'il y ait beaucoup de livres, il sent qu'il n'est pas, il est pas prêt à pouvoir saisir tout ça.
Par exemple, pour un tableau, est-ce que vous croyez que... Pour pouvoir apprécier un tableau, il faut une éducation scolaire, une question de sensibilité.
Il y a une question de sensibilité, puis il y a aussi une question, comme pour toute œuvre d'art, hein, et alors ça c'est quelque chose qui à mon avis est très peu développé, parce que c'est pas expliqué du tout sur le plan scolaire, hein, que dans un roman par exemple, il y a ce qui apparaît à première vue, mais l'auteur a voulu... exprimer quelque chose, et ça, on n'a jamais, des jeunes qui ont été uniquement l'enseignement primaire et même souvent dans l'enseignement secondaire jusqu'au bac, hein, jamais expliqué justement ce qu'il fallait rechercher. Enfin, moi je me souviens, j'ai fini mes études secondaires en 1937. D'abord, on a surtout travaillé sur des ouvrages classiques à l'époque, n'est-ce pas ? Puis après, j'ai fait du droit, donc je peux continuer dans une branche littéraire. Eh bien, on vous alerte pas sur ça, qu'il faut rechercher autre chose que simplement ce qui apparaît à première vue dans un roman, mais ce que l'auteur a voulu, ou dans une pièce de théâtre, ou dans un tableau, enfin ce que l'auteur a voulu exprimer.
Hein? Ça serait plutôt une question d'éducation alors, que de,
ça joue certainement. Oui, mais ça peut se faire, j'allais dire, il y a un rattrapage qui peut se faire, ça peut se faire autrement que par l'école. Hein? Justement, c'est ce qu'on pourrait attendre d'une maison de la culture. Mais vous voyez, il faut. Enfin, c'est très difficile de le faire quand on ne l'a pas ressenti. Soi-même ou. Par les gens avec lesquels on est fréquemment en contact. Hein? Ouais. Comprenez, on dit souvent qu'un certain nombre de dirigeants politiques ne sont pas sensibles à un certain nombre de problèmes, parce que ce n'est pas les problèmes des gens avec lesquels ils dînent en ville. Hein? C'est vrai. Mais c'est vrai. Hein? Ça, c'est...
Qu'est-ce que vous pensez des efforts qui ont été faits au mois de mai depuis pour essayer de... notamment dans l'école des Beaux-Arts, je ne sais pas, où on essaie d'amener du public ouvrier pour essayer de leur apprendre.
Mais je crois qu'effectivement, les ouvriers ont peu répondu. Hein. Enfin, il y en a qui ont répondu, mais peu, un peu. Parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup ont vu dans ce mouvement uniquement les questions matérielles. Hein. Et je pense que ça explique en partie le résultat des élections. Il y a bien sûr le fait que certaines méthodes d'action ont heurté un certain nombre de gens, un réflexe de peur. Et d'un autre côté, il y a eu, à mon avis, chez un certain nombre de gens, consciemment ou inconsciemment, une espèce de réflexe qui a joué, de dire on a acquis un certain nombre de choses, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est un gouvernement comme celui que l'on a maintenant qui sera le mieux à même de sauver le franc. Enfin, vous voyez, c'est des choses qui sont restées. Enfin, je vois, il y a quelques jours, j'ai une de mes filles qui est infirmière à l'hôpital, et elle me disait, il y a une des employées en arrivant le matin qui parlait de dévaluation du franc et qui était catastrophée par la dévaluation du franc. Je dis encore que ce serait vrai qu'il y ait une menace de dévaluation du franc. Qu'est-ce que ça peut faire à une personne qui gagne 60 ou 65 000 francs par mois, qui n'est propriétaire de rien du tout, enfin que de ses meubles et de sa voiture, hein, dont le mari justement est chauffeur, hein, dans l'entreprise de matériaux de construction en face, mais des gens qui ont une situation extrêmement mauvaise, qu'est-ce que ça peut leur faire, une dévaluation du franc, enfin, c'est, alors qu'il y a des mythes, hein, et qui sont répandus dans les milieux populaires. Ah oui.
Quels autres mythes est-ce que vous voyez ?
C'est tout à l'heure ce qu'on disait, par exemple, ce phénomène d'état de se sentir inférieur parce que l'on est ouvrier, n'est-ce pas ?
Vous avez des enfants qui ont fréquenté l'école. Qu'est-ce que vous pensez en général de l'enseignement en France ?
Eh bien, je pense qu'on n'est pas assez pratique. On ne part pas assez de problèmes, c'est un problème pédagogique à mener, on ne part pas assez de problèmes concrets. Hein. Il y a une évolution d'ailleurs, je le sens, puisque j'ai des enfants qui ont 23 ou 24 ans, et puis le plus jeune à 12, 13 ans, n'est-ce pas ? Je sens la différence, hein. C'est beau, c'est très net. Hein. Mais à mon avis, on ne part pas assez de problèmes concrets. Et à tous les niveaux, je vous disais tout à l'heure, je fais des cours d'économie politique à des garçons, des filles, donc qui préparent le concours pour entrer chez nous et qui en même temps suivent des cours pour faire faire, pour préparer leur licence de droit ou de sciences économiques. Eh bien, je trouve que, d'après les échos qu'ils me donnent, on ne parle pas assez de situations concrètes pour aborder un certain nombre de problèmes.
Par le principe,
c'est ça.
On passe par la déduction.
C'est ça. Alors que moi j'ai été très poussé à utiliser la méthode inverse, parce que j'ai fait beaucoup de cours à des sessions syndicales, n'est-ce pas, et que j'ai vu qu'en partant de fait, eh bien, on peut arriver à faire saisir des problèmes à des gens qui n'avaient pas la préparation voulue pour les saisir. Ça me paraît assez... Il n'y a pas le lien qui est fait entre la réalité et ce qui est enseigné. Et je crois que c'est ce qui explique aussi qu'il y a un manque d'intérêt de beaucoup d'enfants pour leurs études. Enfin, si vous voulez, on constate assez fréquemment la surprise de voir que ce qui a été enseigné, ça existe réellement. Non, mais c'est vrai, prenez par exemple, même en géographie ou en histoire, quoi, quand l'enfant, moi je l'ai constaté avec mes enfants, quand l'enfant se trouve en présence de telle région dont on lui a parlé, ben, il n'avait pas réalisé vraiment que ça existait. Alors, ça ne paraît pas utile, quoi, de s'intéresser tellement à ces choses qui nous sont assez nées.
Je m'excuse, mais nous avons encore pas mal de questions à vous poser. Il est bientôt 1h, nous ne voudrions pas...
Bon, écoutez, je ne sais pas quand même... vous êtes ici pour...
Monsieur Vernier, Monsieur Kay et moi, en tout cas pour une autre semaine.
Oui. Parce que voyez-vous, j'aimerais autant que l'on se retrouve... ici ou hors de ce bureau, de toute façon, parce que je peux consacrer 1 heure, comme on l'avait fait ensemble, pour discuter, mais enfin, là, ça me paraît préférable.
Oui, alors, votre famille, je pense que l'avenir.
Alors, je ne sais pas, moi, on pourrait peut-être convenir de se revoir... Je sais pas moi le soir comment vous.
Ah oui, le soir, c'est très faisable. N'importe quand.
Mais comme heure, qu'est-ce qui vous.
Ah, c'est comme vous.
Entièrement.
Qu'est-ce qui vous.
On viendrait moi à là. Une heure qui me.
Non mais vous prenez vos repas.
Oh oui, le repas, on peut les prendre n'importe quand, ça.
Oui.
Alors, on a l'habitude de manger à toute heure. Est-ce qu'il serait possible pour nous
Parce que, par exemple, on pourrait se retrouver un soir, ici, vers 7h moins le quart, jusqu'à 8h15.
Oui, ce serait très très bien. Oui.
Est-ce qu'on peut fixer un jour
pour... Ben, j'aimerais autant, si vous voulez.
Oui, oui.
Ce serait... Alors, moi, je crois que je suis brassé. Qu'est-ce qui vous conviendrait?
Moi, je suis libre entre les soirs.
Le plus tôt possible.
Le plus tôt possible, oui, c'est ça. Parce que finalement, les choses s'accumulent. Hein. C'est ça.
Mais voulez-vous lundi soir?
Oui, très bien.
Lundi soir. Alors, je sors à 6h30, alors il faut compter 7h moins le quart ici.
Oui, 7h moins le quart, 6h45. Le lundi 9 alors, et ici.
C'est ça. Oui, ce matin, je m'excuse de ne pas vous avoir proposé plus tôt, mais alors je vous dis, je suis rentré de vacances. Ouais. Dimanche soir, j'ai repris le travail lundi matin, alors j'avais quand même quelques problèmes à régler.
Et alors, si dans un avenir, enfin, nous avons le temps, puisque notre enquête se poursuit tout le temps,
oui, bien sûr.
Si vous pouviez réunir quelques personnes, soit de la CFDT, soit CFDT, d'autres syndicalistes, d'autres syndicales, enfin syndicales, nous serions extrêmement heureux de pouvoir, parce qu'un débat...
Je vais en parler, je vous dis, cette semaine avec mes camarades. Samedi prochain, on a une réunion d'ailleurs. Alors, vous avez eu des contacts avec des professeurs ici?
Nous en avons, mais les professeurs sont plutôt en vacances en ce moment.
Oui,
alors,
oui, oui. Après, ils commencent à rentrer.
Oui, c'est ça. Oui, nous connaissons pas mal de professeurs déjà. Alors, eux, ils sont, enfin, il est plus facile de les avoir.
Oui, non, parce qu'on en a un certain nombre qui sont
syndiqués.
Soi-même qui réside ici et qui soit professeur.
Ah oui,
monsieur
Antoine.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il est ici en ce moment?
Je ne sais pas, hein, je vous dis, je n'ai pas
de contact. Je l'ai rencontré au mois de mars, avril de cette année. Et on avait promis de se revoir très tôt. Et puis, nous, à cause des événements de mai, on n'a pas voulu venir pour des courtes raisons.
Oui, oui, oui.
On a reporté un petit peu notre visite.
Oui.
Bien, bien, nous vous remercions infiniment.
Oh, ben, non, mais c'est normal. Hein,
éventuellement, on pourrait faire aussi un débat à la maison.
Alors, si je ne me trompe, nous sommes le 9
oui,
septembre.
C'est ça.
Oui, tu as raison.
Et nous sommes à nouveau chez M. Souchu, autour d'une table avec de la bière. Nous allons poursuivre, si vous le permettez, notre entretien. Peut-être en vous posant une question assez générale, vous serez libre d'y répondre, n'est-ce pas, en particulier, sur la situation économique à Orléans.
Pour l'agglomération, parce que ça se tient. Hein.
Oui,
alors, on ne peut pas distinguer,
ça, ce
au
n'est
point
pas...
de vue économique, on ne peut pas distinguer Orléans de l'agglomération, parce que une partie des entreprises dans lesquelles travaillent les gens qui habitent Orléans sont situées sur la périphérie et inversement. Alors je crois qu'on ne peut pas dissocier les deux. C'est vraiment l'agglomération. Alors comme je vous le disais l'autre jour, l'industrie la plus développée, enfin au moins en effectif de personnel, c'est la métallurgie, prise en général. Il y a plusieurs entreprises qui font de la construction de machines agricoles. La régie Renault qui travaille pour l'automobile. Il y a des entreprises de mécanique générale, des entreprises de construction de matériel électrique, moteur ou appareil électroménager. C'est ça, en gros. Il n'y a pas de grosse industrie, ni au point de vue de la nature de l'industrie, ni au point de vue de l'effectif. Alors c'est une industrie qui est née, cette industrie, plutôt après la Première Guerre mondiale. Avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pratiquement pas d'industrie métallurgique à Orléans. Et à l'occasion de la Première Guerre mondiale, il y a deux entreprises qui sont implantées à Orléans, l'une sur Orléans même, qui est Thermor, qui s'appelait Thermor à l'époque, qui est née du repli à Orléans d'industriels du Nord. La famille de Mort, qui s'est repliée à Orléans et qui a commencé à fabriquer du petit appareillage électrique, des boutons électriques, des choses comme celle-là. Et c'est une entreprise qui s'est beaucoup développée entre les deux guerres et depuis la Deuxième Guerre, qui maintenant a perdu son caractère familiale et a été absorbé par une entreprise parisienne. Et le sigle de l'entreprise maintenant c'est CEPEM, C-E-P-E-M. Alors l'autre entreprise qui s'est installée au moment de la guerre de 1914, c'est une filiale de la Compagnie Générale d'Électricité, qui est une des principales entreprises françaises, qui s'est installée à Saint-Jean-de-Bray. Vous voyez, on touche tout de suite la banlieue, qui s'est installée à Saint-Jean-de-Bray et qui s'est installée là pendant la guerre pour fabriquer des baraquements en fer, baraquements métalliques, pour les besoins militaires. Et qui ensuite, c'est tout de suite après la guerre, reconverti et qui fabrique des moteurs électriques. C'est principalement des moteurs électriques et du moteur électrique sont nés en particulier les palans. Ils fabriquent des palans de toutes dimensions et ils ont même une petite fonderie. D'ailleurs, qui pose des problèmes parce que il y a plusieurs accords qui ont été passés entre la CGE et d'autres entreprises. Et une des entreprises avec lesquelles la CGE a passé des accords a, en dehors de la région d'Orléans, une fonderie plus moderne. Et on pense bien qu'à terme, la fonderie d'Orléans est condamnée. Elle emploie d'ailleurs pas la majeure partie du personnel de l'usine, heureusement. Alors voyez-vous, c'est surtout de la guerre, avant la guerre, avant la première guerre, l'industrie locale était une industrie qui était conditionnée par le fait que la région est une région agricole, c'est-à-dire que nous avions des industries de transformation des produits agricoles ou des industries qui travaillaient pour les besoins de l'agriculture, c'est-à-dire que la machine agricole, par exemple, existait déjà à Orléans. Qu'il y avait des usines de conserverie, qu'il y avait des confiseries, fabriques de confitures, qu'il y avait même une entreprise de tissage de laine. Tout ça, ça a disparu. Fabrique de couverture. Tout ça, ça a disparu. Et il y avait aussi une industrie du vinaigre et de la moutarde. Actuellement, on continue à vendre de la moutarde de Dessau. D'Orléans, mais les fabriquer à Dijon, cher Morat. Alors, par contre, le vinaigre continue à être fabriqué à Orléans. Donc, vous voyez, il y a eu une évolution dans cette industrie. Et alors, la deuxième guerre a amené une deuxième vague d'industrie dans la métallurgie et dans d'autres branches que la métallurgie. Cette deuxième vague, ça a été la régie Renault qui a installé une usine dans un établissement qui existait déjà mais qui n'appartenait pas avant à Renault. Et ils sont créé une filiale, la filiale qui s'appelle la Société Française des Coussinets Minces, qui exploite d'ailleurs, je crois, un brevet anglais. Oui, je crois qu'ils fabriquent pratiquement les coussinets pour tous les véhicules français, quelle que soit la marque. Mais c'est un brevet anglais, ça s'appelait avant la Société Française des Coussinets, mais enfin il y avait le nom. Alors il s'est développé également, il s'est installé également une usine Michelin qui fabrique des pneus, qui emploie environ 1 millier de personnes, qui est installée elle aussi sur la périphérie puisqu'elle est à la Chapelle Saint-Mémin. Et à la Chapelle Saint-Mémin s'est développée une usine qui existait déjà avant la guerre, la verrerie Beauce-Bourgogne, qui a été absorbée par Saint-Gobain, enfin qui est une usine du groupe Saint-Gobain, qui fabrique beaucoup de pyrex. Alors, depuis la guerre, se sont également installés plusieurs laboratoires pharmaceutiques, en particulier un laboratoire Sandoz, une fabrique de produits pharmaceutiques Sandoz, qui est une affaire suisse, et les laboratoires Servier, qui sont des usines de produits, qui fabriquent des produits pharmaceutiques. Alors, cette industrie, on peut dire que pendant la période qui a suivi la Deuxième Guerre, il y a eu un moment qui aurait été certainement très favorable pour la région, parce que un certain nombre d'entreprises parisiennes souhaitaient s'installer hors de Paris, mais pas trop loin de Paris. Or, moi j'ai eu le sentiment à ce moment-là qu'il y a eu une espèce d'obstruction un peu des entreprises en place par crainte de la concurrence sur la main-d'œuvre. Et maintenant, je pense qu'on risque de souffrir de cette situation parce qu'il y a effectivement une certaine crise de l'emploi qui s'est développée plus rapidement, enfin de façon plus importante sur l'agglomération orléanaise, sur le département du Loiret, que sur l'ensemble de la France, d'une part à cause du départ des Américains, qui avaient ici quand même le quartier général de la ligne de communication entre l'Atlantique et l'Allemagne, n'est-ce pas ? Et d'autre part, du fait qu'un certain nombre d'entreprises, comme on est dans une région de petites entreprises, dans le phénomène de concentration, ces petites entreprises ont tendance, à, quand il y a des fusions, à disparaître. Et alors on sent actuellement qu'il y a des difficultés sur le plan de l'emploi. Et alors c'est très ennuyeux parce que quand il n'y a pas d'entreprise pour récupérer le personnel, il se produit un phénomène inverse, c'est que, vous voyez, je vous parlais, je crois, l'autre jour, des établissements Malichaud. Ils ont licencié 60 personnes au mois de mars, ils ont licencié à nouveau 130 pour le 1er octobre sur une entreprise qui employait 650 personnes. Et alors, maintenant qu'ils ont licencié 130 personnes, les bons professionnels, s'ils trouvent du travail ailleurs, à Orléans ou hors d'Orléans, même s'ils ne sont pas dans le lot des gens qui doivent être licenciés, s'en vont. Et parce qu'il y a une espèce de phénomène de panique qui se crée, et puis comme les bons professionnels retrouvent plus facilement du travail que les autres, ce qui fait que maintenant ils risquent de se trouver dans une situation où ils ne pourront même pas satisfaire certaines commandes, faute d'un certain personnel. Hein. Alors, voyez-vous, souvent, moi, j'ai constaté, en dehors même d'Orléans, que lorsqu'il y avait un problème d'emploi, on s'en préoccupait, non pas à l'avance, mais au moment où la crise était ouverte. Ça a été le cas à Châteauroux également, dans la région, puisque Châteauroux, c'est dans l'Inde, ça fait partie de la région centre, où il y avait une entreprise qui faisait de la réparation d'avions pour les Américains. Eh bien, cette entreprise... Au moment du départ des Américains, il y a eu des menaces de fermeture complète, des licenciements. Et alors les bons professionnels sont partis. On a encouragé à ce moment-là des entreprises à venir s'installer, mais il faut quand même un an ou deux ans, le temps de construire des bâtiments, de s'installer. Et pendant ce temps-là, les bons professionnels sont partis, les entreprises arrivent et elles ne trouvent plus de personnel qualifié. Hein ? Alors c'est un problème très, très délicat. Sans quoi le département du Loiret et la région, je n'ai pas de chiffres spécifiques à l'agglomération orléanaise, mais le département du Loiret avait connu pendant la période jusqu'à 1966 inclus un développement plus rapide que la moyenne nationale. Actuellement, au contraire, on est à peine à la moyenne nationale, voyez-vous. À peine.
Peut-être, tu avais des questions à poser
Sur ce sujet.
Oui. On pourrait peut-être, découlant de là, parler peut-être des conditions de vie. Oui.
Dans les conditions de vie. Conditions de vie, si vous voulez, il y a d'abord un premier problème qui est le problème du pouvoir d'achat. Hein, problème des salaires, puisque c'est... Si on veut. Alors le problème des salaires, il y a un écart. Enfin, un problème auquel beaucoup de salariés sont très sensibles, c'est ce qu'on appelle le problème des zones de salaire. C'est-à-dire la différence... qui existe entre les salaires de la région parisienne et les salaires de province. Juridiquement, c'est un faux problème. En fait, c'est un très gros problème. Parce qu'il y a deux types d'écart de salaire entre la région parisienne et la province. Ce qu'on appelle les zones de salaire, c'est sur le plan juridique, ce qui s'applique uniquement au SMIG, au salaire minimum interprofessionnel garanti. Et ça, sur ce SMIG, les écarts de salaire entre la région parisienne et la province ont été en s'amenuisant depuis 15 ans, et maintenant, ils sont complètement supprimés. Il n'y a plus de zone de salaire pour le SMIG. Mais dans les derniers temps, c'était de l'ordre de 4% ou de 3%, ce qui est minime par rapport à la région parisienne. Par contre, sur les salaires réels, il existe un écart beaucoup plus important entre la région parisienne et la province. Et même entre Orléans et Paris, à qualification égale, il existe un écart de l'ordre de 22 à 23%. Entre les salaires de la région parisienne, le salaire horaire de la région parisienne et le salaire horaire dans l'agglomération orléanaise. Parce qu'il n'y a pas la même concurrence, la main-d'œuvre n'a pas la même possibilité de s'offrir à des entreprises qui la recherchent, et alors les salaires de la région parisienne sont beaucoup plus élevés. Ça n'est pas justifié par une question de prix, parce que pratiquement, il y a des occasions de dépenses dans la région parisienne que l'on n'a peut-être pas dans l'agglomération orléanaise. Par contre, les prix des produits courants sont aussi forts, sinon plus, dans l'agglomération orléanaise que dans la région parisienne. Et beaucoup d'Orléanais, quand ils en ont la possibilité, achètent certaines choses, même à Paris, soit sur le plan vestimentaire, soit sur le plan des appareils électroménagers ou de la radio, de la télévision, de la photographie, parce que les magasins parisiens font des remises que ne font pas les magasins orléanais. Alors, donc, ce n'est pas justifié par une question de prix, uniquement une question de loi de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Alors, cet écart, j'ai pas de chiffre exact pour l'agglomération orléanaise, mais justement cet après-midi, je regardais une revue qui s'appelle Études et conjonctures, qui est publiée par l'Institut de la statistique, et dans leur dernier numéro, ils ont publié les statistiques sur la moyenne des salaires par département et par région pour ce qu'on appelle les salariés à temps complet, c'est-à-dire des gens qui ont travaillé année entière. C'est fait à partir des déclarations fiscales, or les salariés échappent, il y a très faible partie des salaires qui échappent à l'impôt. Alors, je constatais encore que pour l'année 1966, la région centre se classait au 14e rang des 21 régions, que le département du Loiret, lui, était peut-être dans le premier tiers, mais qu'il était malgré tout au-dessous de la moyenne nationale, et à environ 35% au-dessous de la moyenne de la région parisienne. Ça tient à deux choses, ça tient au fait qu'il y a davantage de personnel qualifié dans la région parisienne. Alors évidemment, la moyenne des salaires est plus élevée, mais aussi à cet écart entre les salaires à qualification légale. Alors, ça c'est un premier aspect du problème, et on peut dire que si dans certaines entreprises de métallurgie, le professionnel gagne honnêtement sa vie, dans des branches comme la confection, comme le commerce, comme certaines dans le bâtiment, n'est-ce pas, tout au moins les manœuvres dans le bâtiment, eh bien il y avait certainement beaucoup de salaires qui étaient en dessous de ce qui a été acquis au mois de mai et juin dernier, n'est-ce pas. Alors les conséquences que ça peut avoir sur le plan général, c'est que cette région est une région dans laquelle la scolarisation, dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement primaire, il n'y a pas de problème, elle est obligatoire, est à un taux inférieur à la moyenne nationale. Que d'un autre côté, l'équipement des logements est également au-dessous de la moyenne nationale. J'avais vu ça au moment du recensement de 1962, et bien le nombre de logements qui étaient, le pourcentage des logements qui étaient pourvus seulement d'une douche, je ne parle pas d'une salle, enfin, même d'un lavabo, en dehors de, du simple évier qu'il peut y avoir dans une cuisine, était un chiffre extrêmement faible. Je ne sais pas si j'ai... les chiffres... Enfin, on constatait des taux inférieurs à la moyenne nationale. Mais c'était, je crois que c'était de l'ordre de 15% des logements. Alors qu'il y avait déjà eu un certain nombre de constructions neuves, hein, qui, elles, obligatoirement étaient pourvues d'une salle d'eau. Donc, alors, c'est les conséquences que l'on peut voir sur le plan du niveau de vie. On les retrouve également par le fait qu'un certain nombre d'ouvriers continuent à être à moitié ouvriers, à moitié paysans. Ça se retrouve beaucoup dans le personnel des usines particulières qui sont sur la chapelle Saint-Mémin, qui est à l'ouest de l'agglomération, et où un certain nombre d'ouvriers de ces usines-là, de Michelin et la verrerie Saint-Gobain, qui font des horaires des 3-8, n'est-ce pas, consacrent une partie de leur journée à cultiver encore quelques champs. Ce qui, sur le plan social, porte préjudice à la fois à la classe ouvrière et à la fois aux paysans. Parce que si, sur le plan des salaires, évidemment, ils ont une compensation déjà, puisqu'ils ont double ressources, n'est-ce pas? Et sur le plan du prix des produits agricoles, bien évidemment, c'est pareil, ils ne sont pas très revendicatifs non plus dans ce domaine-là.
Vous avez mentionné Paris plusieurs fois, plusieurs reprises. Est-ce que très brièvement, vous pourriez évoquer les problèmes qui se posent dans les rapports entre Cap-Paris?
C'est ça. Alors, on peut peut-être remonter un peu dans le temps. Le département du Loiret est un département qui est loin d'avoir... qui vient de retrouver sa population maximum, mais qui a longtemps été au-dessous du chiffre maximum qui avait été atteint vers la fin du 19e siècle. Parce que, étant à proximité de la région parisienne, étant une région où il y avait pas mal de vignobles, c'est une région qui a beaucoup fourni de main-d'œuvre à la région parisienne dans la phase de développement industriel de la région parisienne, qui s'est beaucoup dépeuplée. Je vois des communes qui ont eu jusqu'à 5 000 habitants à la fin, plus de 5 000 habitants à la fin, je pense à Beaugency en particulier, qui est à quelques 25 km d'Orléans, qui a eu plus de 5 000 habitants à la fin du 19e siècle, et qui n'a retrouvé ce chiffre-là après être descendu à 3 200. Il n'a retrouvé ce chiffre-là que depuis 7 ou 8 ans, n'est-ce pas? Il y a eu un dépeuplement au profit de la région parisienne. Alors dans la période qui a suivi la guerre, la dernière guerre, il y a eu au contraire un phénomène de reflux qui s'est amorcé, parce que les communications étant plus rapides, les entreprises acceptaient assez facilement, comme je vous disais tout à l'heure, de venir s'installer dans la région, et alors c'est une des régions qui a le plus bénéficié de la première vague de décentralisation. C'est le Loiret et l'Eure-et-Loir, qui est le département voisin, sont les deux départements qui ont eu les plus grosses décentralisations en France. Et alors, donc ça a permis, un point de vue démographique, un renouveau, et ça a sans doute aussi contribué au fait que l'écart entre les salaires d'Orléans et de la région parisienne est beaucoup moins important qu'il ne l'est avec des départements qui sont tout proches. Enfin, je disais tout à l'heure que le Loiret devait se situer au 25 ou 26e rang des départements comme moyenne des salaires. L'Indre, qui est à quelques 100 km plus bas, se situe au 80 et quelques, 85e rang, n'est-ce pas? Alors, donc, on est très... Moi, je crois qu'on est très influencé par la proximité de la région parisienne. Et le problème actuellement, c'est un problème qui a été évoqué il n'y a pas longtemps dans Le Monde, vous voyez l'article qui est là, Orléans à la recherche d'une vocation, hein, je ne sais pas s'il va y avoir la date encore, j'ai peut-être eu la prudence de la noter, c'est possible, mais si ça vous intéresse, je pourrais vous en donner une photocopie.
Je crois que nous l'avons celle-là.
Oui. En tout cas, c'est bien ça le problème, c'est de savoir, est-ce que, et d'ailleurs, il va être discuté là, dans les semaines qui viennent, puisque le gouvernement organise une consultation des régions sur le devenir régional, et il faut qu'il ait les résultats de cette consultation avant le 31 octobre, n'est-ce pas ? On va consulter les organisations patronales, les organisations syndicales, les organisations paysans, enfin, toutes les collectivités locales, sur le devenir des régions. Et on se pose la question de savoir si, je crois bien qu'on l'a évoqué déjà l'autre jour, je ne sais pas si c'était avec vous, le problème de savoir si on ne devrait pas redistribuer les régions et réduire le nombre des régions. Je ne sais pas avec vous, je sais que j'ai rediscuté ces jours-ci de ce problème, et que certains pensent qu'il faudrait réduire le nombre des régions à 8 ou 9, centrer autour de, voyez-vous, Nantes, Touraine, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, il est semblable que ce serait la bonne solution.
Et très grandes villes.
Très grandes villes, qui seraient des pôles de développement. Et il est à craindre que l'on ait, il est vraisemblable, il est même certain qu'on n'adoptera pas cette position pour des raisons politiques. Parce que une ville qui est chef-lieu, enfin capitale régionale, vous comprenez tous les remous que ça provoquerait si on lui enlevait ce qu'elle considère comme un titre. Il y a déjà de gros problèmes, par exemple dans la région centre, entre Orléans et Tours. On a partagé l'université entre Orléans et Tours, ce qui n'est pas forcément une mauvaise formule, mais enfin, ça a été fait non pas dans un but, disons, de réaliser quelque chose de mieux, mais dans le but de
ménager,
d'équilibrer entre les deux villes. Il se pose les mêmes problèmes entre Metz et Nancy. Et si on voulait réduire le nombre des régions, il se poserait les mêmes problèmes entre Rennes et Nantes. Alors, voyez-vous, le problème d'Orléans, c'est de savoir si ça restera la tête d'une région, ou bien si ça deviendra une de ces 8 ou 10 villes satellites de la région parisienne. Ce qui ne serait pas forcément quelque chose d'humiliant, n'est-ce pas, si on donnait l'ensemble des éléments nécessaires pour qu'il y ait une vie valable dans ces villes, vous voyez, Orléans, Le Mans, Amiens, Reims, pour essayer de réduire cet afflux qui se produit vers la région parisienne. Parce que les pôles de développement, il n'y a pas seulement le fait d'avoir une université ou d'avoir la chef-lieu de l'administration de la sécurité sociale ou des impôts. Il y a des problèmes financiers, tout, vous savez, enfin vous êtes certainement au courant de cette centralisation énorme, non seulement au point de vue administratif, mais aussi au point de vue financier qui existe sur Paris. Hein. Et je crois qu'au point de vue fiscal, j'avais travaillé plus spécialement ça du point de vue professionnel, je crois qu'il y a à peu près la moitié des impôts qui sont perçus dans la région parisienne, parce que les sociétés ont leur siège dans la région parisienne et paient les impôts au lieu de leur siège, ce qui fait que c'est monstrueux. Il y a pratiquement dans la région parisienne, une définition actuelle, plus de 20% de la population de la France entière. Évidemment, c'est un problème d'équilibre. Alors, suivant, on est à 115 km de Paris, c'est quand même très près. Quand même très près. Quand il y aura l'aérotrain, ce sera à 20 minutes de Paris. Vous savez, je pense que c'est un élément qui peut influencer beaucoup.
Oui, on voit difficilement Orléans comme centre d'une région
autonome. Oui. C'est ça.
C'est ça. Bien sûr.
On est trop près de. Enfin, il y a une trop grande attraction, à mon avis.
Oui.
Hein? Non, pas attraction, si vous voulez, de la population pour aller vers Paris, mais attraction de l'activité. Hein? Attraction de l'activité. Hein? Je crois que c'est surtout ça, merci. C'est surtout ça. Hein? Alors. Ça ne veut pas dire que le développement d'Orléans serait très différent dans un cas ou dans l'autre. C'est pas forcé. Sur le plan économique.
Mais vous, qu'est-ce que vous préférez?
Oh, j'ai pas de préférence particulière. Mais je vois les choses parce qu'elles sont. Je vois difficilement Orléans échapper à ce phénomène parisien.
Ah, oui.
Et à mon avis, il vaudrait mieux carrément faire un choix et poser un certain nombre de conditions à cette évolution que de vouloir à tout prix rester une capitale régionale et peut-être... Péricliter. Enfin, pour péricliter, mais...
Oui, enfin, pas se développer.
Pas se développer.
Et les problèmes qui nous paraissent un peu difficiles à saisir, c'est les rapports entre Orléans et la source, par exemple. Il semble qu'il y avait certains plans, mais qui n'ont pas eu l'air de se...
Ah, ça va certainement moins vite que ce que l'on avait pu penser. Encore que moi, j'ai beaucoup... ça m'intéresse beaucoup de voir... Oui. Net, cette ville nouvelle, j'y vais souvent, j'y vais plusieurs fois dans l'année, voir comment ça évolue. Depuis 4 ou 5 ans, j'ai souvent fait passer un après-midi, le dimanche, là-bas, pour voir un peu net cette ville nouvelle. Eh bien, moi je crois que, voyez-vous, un des problèmes qui vont se poser, c'est plus le problème d'un équilibre de vie à la source que le problème des communications. Il sera résolu, le problème des communications, plus ou moins vite, mais il sera résolu, le problème des communications. Mais il y a une zone industrielle, parce qu'il faut pas qu'il y ait simplement l'université là-bas. Hein? Il faut qu'il y ait tout un tissu. Il y a une zone industrielle de 100 hectares, même si ça ne doit pas être une industrie lourde, si ça doit être... Mais actuellement, sur ces 100 hectares qui sont pratiquement disponibles, il n'y a que 16 hectares qui sont ou vendus ou retenus, ou simplement retenus. Il reste 84 hectares. Alors, dans la mesure, il y aura beaucoup d'activités tertiaires là-bas, c'est sûr, ce centre de chèques postaux de la région parisienne qui emploiera 3000 personnes. Il y aura la direction régionale des statistiques qui va aller s'installer là-bas. Il y a le Centre national de la recherche scientifique qui installe des laboratoires, bureau de recherche géologique et minière, l'administration à laquelle j'appartiens qui va installer un centre mécanographique là-bas. Enfin, il y aura beaucoup d'emplois du secteur tertiaire, mais c'est des emplois féminins tout ça. Il n'y a pas d'emplois masculins. Mais une proportion, c'est absolument disproportionné. Peut-être qu'ils exagèrent, mais j'ai des camarades des PTT qui disent qu'il y aura sur 3000 emplois, 50 emplois masculins au centre de chèques postaux. Et même s'il y en a 100, hein, Le centre mécanographique, nous, s'il y a 160 emplois, il y aura 150 emplois féminins et 10 emplois masculins. Et tout est dans les mêmes proportions. Alors, ça pose des problèmes.
Est-ce que vous croyez qu'ils vont trouver toutes ces femmes, enfin, dont ils ont besoin pour les chefs postes?
Je crois. Ça, je crois.
Et vous trouvez quand même que ça pose des problèmes, là? Quel genre de problème?
Ce recrutement?
Oui.
Oh, ben, le recrutement ne va pas être uniquement local. C'est que les fonctionnaires sont la plupart du temps des fonctionnaires titulaires. Il va y avoir des mutations. Or, traditionnellement, en France, les fonctionnaires se recrutent dans le midi. Parce que, économiquement, ça change d'ailleurs.
On a vu ça dans la police,
par exemple. Ah oui, mais dans les impôts, dans les PTT. Et alors, la plupart du temps, les gens qui étaient recrutés dans le midi, comme il n'y avait pas suffisamment de postes pour eux dans le midi, on les envoyait dans le nord ou dans l'est, ou dans la région parisienne. Ces gens-là vont être très heureux de pouvoir faire une étape pour se rapprocher de leur lieu d'origine, et je crois qu'il n'y aura pas de difficulté. Hein, le recrutement ne sera pas forcément local. L'avantage que ça présentera pour les jeunes filles qui habitent Orléans, c'est que si elles passent un concours pour rentrer dans les PTT, elles savent qu'elles trouveront un poste à Orléans. Alors ça peut les inciter, hein, mais sans quoi il y aura beaucoup de mutations. Puis ça va se faire très progressivement, au rythme de 60 ou 80 emplois par mois sur une durée de 2 ans ou 2 ans et demi.
Moi je pense un peu aux étudiants qui sont à la source, en admettant par exemple que le développement prévu se produise. Est-ce que vous ne craignez pas que si les étudiants trouvent un centre, n'est-ce pas, à la source, qu'ils ignorent complètement Orléans et qu'il y ait en quelque sorte deux villes complètement étanches, les uns attendant les étudiants une activité enfin culturelle et autre, mais les étudiants ne venant plus à Orléans parce qu'il n'y a pas de...
C'est possible, c'est pas sûr.
Non.
C'est pas sûr.
Oui. Comment est-ce que vous voyez le problème?
Qu'il y aura plus de difficultés à faire aller à la source la population d'Orléans qu'à faire venir à Orléans les étudiants. Enfin, voyez-vous, il y aura une plus grande mobilité des étudiants pour participer un peu à la vie d'Orléans que de la population orléanaise pour participer à cette vie de la source qui pourrait être très intéressante. Mais... parce que si on réalise ce qui est prévu, il y aura des choses extrêmement intéressantes. Je sais que personnellement, d'ici quelques années, j'irai volontiers habiter à la source.
Ah bon ? Pour quelle raison ?
Parce que d'abord, c'est un cadre plus verdoyant, plus agréable de ce côté-là. Et puis, d'un autre côté, sur le plan culturel, ça devrait être extrêmement intéressant. Ça devrait être extrêmement intéressant.
Et cela repose le problème, justement, s'il y a un intérêt culturel à la source, est-ce qu'il peut y avoir en même temps un intérêt culturel à Orléans, n'est-ce pas?
Ah, il est possible que ça crée des difficultés et que le problème des liaisons à ce moment-là... Mais voyez-vous, moi ce que je pense, c'est que c'est pas les moyens matériels qui feront défaut, ce sera le problème à voir, ce sera le problème du coût individuel, après, pour faire le... Dans la mesure où les gens utiliseront des transports collectifs, quel sera le coût actuellement, le coût des transports collectifs est quand même assez élevé. Je crois que pour aller en autobus du Mar 3 à la source, ça doit être 5, c'est 6 tickets. Oui, c'est ça. Alors ça fait 1,80 francs. Ça fait 1,80 francs. Il faut revenir. Hein? Alors, bien sûr, on instaurera peut-être des abonnements pour le travail, mais pour le point de vue culturel que vous évoquiez, ça ne jouera pas. Alors, ça s'ajoute. Hein? J'ai des voisins qui ont 6 enfants et qui n'avaient pas de voiture à l'époque. Ils disaient, si on va visiter le parc floral, rien que le déplacement, c'est une affaire de déjà 2000 ou
parce qu'il a faim.
C'est ça. Effectivement, voyez-vous, à mon avis, il y a un problème de liaison, mais non pas de moyens de liaison, mais de coût de ces moyens au point de vue des usagers.
Bon. Est-ce que nous pourrions peut-être maintenant revenir un peu à l'organisation dont, à laquelle vous appartenez, la CFDT? Et alors, si vous pouviez peut-être nous parler des rapports entre la CFDT et la CGT, surtout en ce qui concerne évidemment pas le problème politique, et ensuite nous parler des problèmes politiques, n'est-ce pas, tels que les voies de la CFDT, certains problèmes cruciaux, et peut-être terminer enfin ceci sur le grand mot du moment qui a été encore redit ce soir par le général de Gaulle à la télévision, j'ai eu le temps de l'apercevoir, la participation.
Alors, les rapports entre la CGT et la CFDT, ils sont pas très différents au plan local de ce qu'ils sont en général au plan national. La CGT est une organisation plus importante en effectif, je le disais l'autre jour, que la CFDT. Et si cette situation va s'atténuer un petit peu, la CGT, soit par principe, soit par tradition, a gardé, disons, son optique, sa manière de voir les choses, comme si elle était presque la seule organisation. Et elle a passé un accord avec la CFDT parce que vraiment elle a senti quand même que la CFDT prenait une importance et qu'on ne pouvait pas faire un mouvement important sans la CFDT. Disons que sur le plan des revendications, sur le plan social, on est à peu près d'accord. Sur le plan social, que également il n'y a pas de grosse différence sur les moyens d'action. On a même constaté un certain nombre de fois où sur les moyens d'action il y avait plutôt un certain freinage de la part de la CGT par rapport à ce que au moins les militants de la CFDT auraient souhaité. Je crois que c'est surtout sur les objectifs à long terme que la différence est plus nette entre la CGT et la CFDT. C'est-à-dire que, si vous voulez, si le Parti communiste, qui quand même influence beaucoup la CGT, s'orientait dans une voie libérale comme celle des Tchécoslovaques, il est bien certain que là, alors, il y aurait beaucoup moins de divergences entre la CGT et la CFDT. Hein? Ce n'est pas le socialisme qui est une barrière entre la CGT et la CFDT. À mon avis, la plus grande barrière entre les deux, c'est la conception que se fait l'organisation du syndicat. La CGT en est restée à la conception marxiste-léniniste du syndicat qui est la courroie de transmission du parti. Hein? Et ça, on l'a constaté dans plusieurs circonstances. Si une action n'est pas engagée par la CGT avec l'accord du Parti communiste, la CGT, même si sur l'objectif à atteindre elle est d'accord, elle ne marchera pas. On a eu l'exemple pendant la guerre d'Algérie. Pendant la guerre d'Algérie, bien sûr, le Parti communiste, même si ça n'a pas été vrai tout à fait au début de la guerre d'Algérie, après, était favorable à l'indépendance de l'Algérie. Or, il se trouve qu'à une certaine époque, il y a eu des manifestations qui ont été décidées en faveur de la paix en Algérie par l'UNEF. Ça remonte loin, ce n'est pas, ça n'a aucun rapport avec les événements récents. Et la CFDT, la CFTC à l'époque, Force ouvrière, avait décidé de participer à ces manifestations. La CGT n'y a pas participé et a demandé à ses militants de ne pas y participer. Et à Paris, j'ai connu un fait qui a été très caractéristique. Dans une usine parisienne où la CGT était bien implantée, la CFDT aussi, le responsable syndical, le secrétaire syndical, n'était pas au Parti communiste. Et il était très favorable à la participation à cette manifestation, et il a appelé ses camarades à participer à cette manifestation. 48 heures plus tard, il était destitué de ses fonctions de secrétaire syndical. Hein? Alors vous voyez, c'est là que certainement il y a la coupure la plus grande. Hein? Ça ne veut pas dire que la CFDT se désintéresse des problèmes politiques. Mais ce qu'elle ne veut pas, c'est être à la remorque d'un parti politique. N'est-ce pas? Je vais vous citer justement de la même entreprise un fait. Le secrétaire de l'Union régionale ici, CFDT, permanent, travaillait dans l'entreprise où il y a eu cet incident. Et il a été à l'origine, c'était dans une usine de Thomson, dans la région parisienne, il a été à l'origine du développement de la CFTC à l'époque, de la CFDT, dans cette entreprise. Et il y a eu des mouvements. Un milieu où il y avait beaucoup de techniciens et où ils ont eu des moyens d'action extrêmement astucieux. Enfin, ça a été des expériences certainement intéressantes. Et alors, ils travaillaient beaucoup avec la CGT. Ils travaillaient beaucoup avec la CGT. À la suite d'une grève qui avait donné de bons résultats, ils revenaient en métro avec le secrétaire syndical de la CGT. Le secrétaire syndical de la CGT lui a dit, bah tu vois, si on était en démocratie populaire, moi je serais le directeur de l'entreprise, toi tu serais le secrétaire du syndicat et tout marcherait très bien. Il lui a dit, pas vrai, non, c'est pas vrai. Moi je continuerai à contester le pouvoir. Hein, voilà, c'est, je crois que c'est ça le fond du problème.
C'est ça, symbolique.
C'est ça le fond du problème, moi je crois. Hein, parce que sur les revendications, sur les méthodes d'action, encore une fois, on se retrouve souvent, hein? Mais il est bien certain. Voyez-vous, prenez un autre exemple qui est caractéristique, c'est le problème de la distribution en France. C'est un problème de fond au point de vue économique. Hein? Enfin, vous savez qu'en France, c'est un des pays où il y a le plus de points de vente rapportés au nombre d'habitants. Eh bien, la CFDT a toujours inscrit dans ses revendications la réforme des circuits de distribution, pas la CGT, parce que la clientèle des petits commerçants est une clientèle du Parti communiste, et alors il faut mettre en sourdine cette affaire-là. Alors voyez-vous, je crois que c'est là qu'est la grosse divergence. C'est là qu'est la grosse divergence.
Alors, quand vous dites, vous prononcez le mot politique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous entendez exactement par là?
Ben, c'est-à-dire que on peut dire que, surtout depuis son évolution, la CFDT s'est engagée sur le plan, disons, de l'organisation économique dans une voie socialiste, incontestablement, et que pour nous, le critère, c'est bien sûr la propriété des biens de production, mais c'est surtout de qui dépendra le pouvoir de décision en matière d'investissement. Parce que finalement, c'est de là que tout résulte. Qui détiendra le pouvoir de décision en matière de crédit? Qui détiendra le pouvoir de décision en matière d'investissement? N'est-ce pas? Eh bien, là, si vous voulez, c'est à cela surtout que l'on est attaché, quoi. C'est à une évolution dans ce sens-là, voyez-vous. Vous avez, je sais pas, c'est quand même assez particulier, mais il a été question, monsieur Jeannet, qui a été à un moment ministre de l'Industrie, et il avait préconisé à cette époque-là la création d'une banque nationale d'investissement, d'une caisse nationale d'investissement, avec une possibilité de participation des organisations syndicales
au conseil d'administration quoi, de cette Caisse nationale d'investissement, et il a rencontré de l'opposition à l'intérieur du gouvernement, et je crois qu'à l'époque il s'est même retiré un peu à cause de ça. Hein. Eh bien, c'est un projet dont on reparle de temps en temps, en l'ayant beaucoup modifié, parce que il ne serait plus question actuellement d'y introduire des représentants des organisations syndicales, mais voyez-vous, c'est une chose à laquelle on est très attaché, la création d'une caisse nationale d'investissement qui aurait pour administrateur des représentants, entre autres, des représentants des salariés. Hein. Si vous voulez, la nationalisation, on a vu tellement de nationalisations qui ont été tournées de leur but que c'est pas tellement un critère, mais la nationalisation du crédit, des décisions en matière d'investissement, oui, d'accord. Alors je crois que là, c'est là une des choses. Alors il y a un deuxième aspect, c'est, je crois, le but qu'on peut assigner à l'économie. Le but qu'on peut assigner à l'économie, c'est-à-dire toute la... Enfin, là, on entre au cœur des problèmes qui ont été soulevés, à mon avis, au mois de mai. Le problème de savoir si on aura une société de consommation, c'est-à-dire une société dans laquelle l'homme sera un peu aussi une civilisation du gadget, quoi. Enfin, si l'homme sera... Moi, je sais pas, vous avez des gens qui sont les esclaves de leur automobile ou de la télévision, quoi. C'est ça le problème, savoir si on donnera aux gens une culture. On attache beaucoup d'importance à la culture pour que les gens puissent dominer une civilisation. On n'est pas absolument pas contre un progrès technique. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on mette à la disposition des travailleurs, c'est-à-dire de l'ensemble de la population, pas seulement eux, mais l'ensemble de la population, sur le plan culturel, les moyens de dominer une situation comme ça, une civilisation comme celle-là, et de ne pas en être les esclaves, consciemment ou inconsciemment. Et vous, alors là, je crois qu'effectivement, c'est là qu'il y a un certain humanisme que pour le moment, on ne trouve pas à la CGT. Au moins chez les principaux responsables, oui. Parce que moi j'ai d'excellents camarades à la CGT qui ne sont pas au Parti communiste et qui pensent comme ça. Hein, mais qui restent à la CGT parce que c'est la vieille organisation syndicale. Hein. Et il est bien certain que dans la mesure où la CGT accepterait la pluralité des tendances, n'est-ce pas, dans la mesure où elle accepterait certains aménagements sur ces problèmes fondamentaux, nous souhaiterions l'unité syndicale, parce que les patrons ont une seule organisation syndicale, les paysans ont une seule organisation syndicale, et il est certain que la classe ouvrière, enfin l'ensemble des salariés en France, souffrent de la division syndicale, n'est-ce pas ? Ça, c'est pas par principe que l'on est pour la pluralité syndicale, c'est...
Oui.
Parce qu'il y a vraiment quand même des points de divergence importants.
Oui.
Et c'est pourquoi je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la CFDT a pris des positions assez flèches au moment des événements de mai et juin. Et en particulier sur le problème de l'information. Mmh. Alors on entretient de bons rapports sur le plan local avec les responsable de la CGT, mais enfin, on a quelquefois des discussions assez âpres, parce que on essaye aussi de leur faire saisir, parce qu'ils ne le saisissent pas toujours, qu'ils ne sont pas absolument libres de leur mouvement. Quoi.
Est-ce que le côté catholique ou chrétien, oui, de la CFDT joue un rôle?
Non, vous savez, je vous l'ai dit l'autre jour, l'évolution dans le titre et dans les statuts n'a fait que mettre à jour quelque chose qui existait déjà dans les faits, hein, mais nos adhérents, si on se place sur le plan, disons, de pratique religieuse, surtout dans les milieux ouvriers, on a une proportion d'adhérents très importante qui sont ou pratiquants ou même athées ou des musulmans. Enfin, ça ne... Non, je crois que de plus en plus, enfin, quand on voit les adhésions qu'on a faites, par exemple, au mois de mai, elles venaient de milieux qui n'étaient absolument pas influencés par l'aspect religieux des problèmes. Hein. Par contre, il est certain que cette place que l'on donne à l'homme dans la société a eu un caractère attractif, quoi.
Oui, certainement. Un peu de personnalisme.
Oui, syndical. c'est ça. Oui, oui, oui. 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 Enfin, personnalisme, en même temps, ce que j'appellerais un peu, c'est une formule qui est très courante en Afrique, le communautarisme. Hein? C'est-à-dire que l'homme, oui, le personnalisme, mais qui s'épanouit aussi au sein d'une communauté. Non pas, voyez-vous, pour bien marquer la différence entre personnalisme et individualisme, hein? Mais hein? C'est la doctrine du syndicalisme africain, hein, le communautarisme, enfin du syndicalisme africain qui est proche de nous, et c'est extrêmement intéressant, oui.
Eh bien, peut-être... pardon.
Est-ce qu'on peut vous demander si personnellement vous êtes catholique ?
Oui, pratiquant. Merci bien.
Qu'est-ce que vous pensez du rôle que l'Église peut jouer actuellement ? Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la dernière encyclique ? Est-ce que l'Église devrait donner davantage de directives à ses membres ? Ou bien, au contraire, les laisser plus libres ?
Alors, moi, je crois qu'il faut laisser une certaine liberté. Hein. Merci. Il faut laisser une certaine liberté parce que il y a maintenant justement il faut que, à mon avis, hein, que on tienne compte sur le plan religieux du fait que la moyenne des hommes, quoi, ont des connaissances, des moyens de connaissances plus développés, n'est-ce pas, et des moyens de jugement plus développés, et que leur jugement est quand même repose sur des choses plus sérieuses qu'à une certaine époque, quoi, et qu'il faut donc laisser quand même une certaine liberté d'appréciation. Enfin, je reviens d'Espagne, hein. J'ai passé mes vacances en Espagne. Hein. J'ai été très frappé, qu'est-ce que vous voulez, j'ai été assisté à la messe là-bas. Quand j'étais en Espagne, on allait à la plage, on voyait beaucoup d'Espagnols avant de se baigner qui prenaient, qui trempaient la main dans l'eau, qui faisaient le signe de croix. J'ai vu des Espagnols monter dans le train, faire le signe de croix avant que le train se branle. Des Espagnols sortir de leur maison, faire le signe de croix avant de s'engager dans la rue. Bon. Ce serait le signe, disons, bon, qu'il y a un sentiment religieux. Et puis, j'ai été assisté à la messe là-bas, le dimanche. Quand j'ai vu la façon dont la messe était expédiée dans la paroisse où j'ai été, et que, à peine la messe était finie, que tout le monde se précipitait vers la sortie, ça me donne plus le sentiment d'une certaine superstition. Hein. J'étais en Bretagne l'année dernière, malheureusement, tout au moins dans les campagnes bretonnes, constaté des choses identiques, enfin, un jour de 15 août, dans une toute petite... dans un tout petit village breton, l'église bien sûr était pleine, et alors les braves hommes qui étaient devant moi discutaient de la pluie et du beau temps, et puis tout d'un coup entonnaient le refrain du cantique Alors, vous voyez, ça, voilà, c'est là que je crois que le problème, on en revient à un problème de formation, de culture, hein, Enfin, personnellement, ça me paraît fondamental et ça permet, une fois que les gens sont mieux formés, ont une plus grande culture, ont plus de moyens d'appréciation, de leur laisser une plus grande liberté d'appréciation. Hein. Ça.
Alors, peut-être, moi je vais vous poser une dernière question avant de passer la parole à M. Hermier. pourquoi est-ce que vous êtes à la CFDT, pour résumer en quelque sorte
le
débat?
Alors, disons que j'ai été à la Libération pendant un an à la CGT, parce que j'étais absolument ignorant des problèmes quand je suis rentré dans l'administration. Je suis rentré pendant la guerre. Les organisations syndicales étaient inexistantes, elles étaient interdites. Et à la Libération, on m'a proposé la carte syndicale. Pratiquement à l'époque, j'étais si peu informé que j'ai pensé qu'il y avait un seul syndicat et que j'ai adhéré à la CGT. Et puis, comme je suivais quand même un certain nombre de choses, j'ai rapidement vu qu'il existait plusieurs organisations, qu'effectivement il y avait, tout au moins du côté des dirigeants, la CGT, pas une liberté d'action totale, pas une liberté d'orientation totale. Au bout d'un an, j'ai sans difficulté et sans avoir été sollicité d'ailleurs personnellement, dit je prendrai une carte à la CFTC à l'époque. Dire qu'à l'époque, j'y ai pas été conduit un peu parce que, effectivement, j'étais catholique, ce serait faux, quoi. Je crois qu'effectivement, j'estime que si on est conséquent avec ses conceptions sur le plan religieux, on doit chercher à appartenir sur le plan temporel à une organisation qui, sans être inféodée à une religion, qui au moins a des principes qui n'en sont pas trop éloignés, et c'était le cas. Enfin, cette place de l'homme, fondamentalement, sur le plan religieux, ça doit être la même chose, quoi. Et après, j'ai eu l'occasion d'avoir des responsabilités à la CFTC à l'époque, de voir qu'on pouvait les exercer en toute liberté, qu'il y avait une très grande démocratie. J'ai vu des journalistes qui ont assisté au congrès confédéral de la CGT, au congrès confédéral de la CFTC, puis de la CFDT. Ils ont dit, c'est tout différent, n'est-ce pas? Il y a une liberté d'expression, on n'assiste pas à un concert de louanges. Ça a été... Alors, je crois que tout ça, par tempérament, ça m'a convenu, quoi. Pour autant, je n'ai pas toujours été d'accord avec les organisations. Non, on les discute, au moins, et puis on vote, et puis on prend les décisions à la majorité. Et puis, une fois qu'on a pris les décisions à la majorité, eh bien, même si on n'a pas été dans la majorité, ma foi, en démocrate, on applique les décisions. C'est normal. C'est normal. Mais au point de vue liberté d'expression, de discussion, et puis on tient compte quand même des avis des minorités, quoi. Ça, j'ai vu, moi, j'ai suivi tous les comités nationaux de la CFTC avant l'évolution, et j'ai vu progressivement la minorité qui était pour l'évolution devenir la majorité, mais ça s'est fait en toute liberté. Il n'y a pas eu de coup de force, il n'y a pas eu de coup de main pour s'emparer de la direction de l'affaire. Ça a été... Ah oui.